Merci donc beaucoup d'être venu encore pour cette séance. Je rappelle que c'est une séance double puisque demain, au centre communautaire, il y a la suite des événements avec les mêmes participants plus le Rav Ackermann qui nous aura rejoint d'ici là, toujours sur le thème des engendrements, toujours évidemment sur la pensée de Manitou. Il va y avoir un grand événement dans ce mois de juin, dans l'histoire de la poursuite de l'enseignement de Manitou, c'est la création, le lancement de ce site internet qu'Olivier Cohen continue de soigner, donc Olivier Cohen continue de soigner l'accouchement pour qu'il apparaisse avec un très beau site pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, des belles images et surtout évidemment l'ensemble des références qui sont intéressantes pour Manitou, les textes audio, évidemment tout ce qui existe en film, et puis il y aura dans ce site notamment des interventions qui seront publiées par nos intervenants sur des citations qu'on prendra dans les textes de Manitou et à qui on demandera et qu'on développera donc quelques minutes avec chacun des intervenants. Vous verrez tout ça, donc si tout va bien, pour la fin du mois. Ce site, je pense, va changer un peu la dimension de toute cette entreprise qui, quand on le voit au fur et à mesure, s'inscrit vraiment dans la durée, puisqu'au départ, comme vous le savez, Olivier Cohen avait souhaité développer de manière un peu, expérimentale, hein, cette possibilité de continuer, de perpétuer, de renouveler, d'amener jusqu'à un point d'incandescence cet enseignement, cette tradition laissée par Manitou. Et maintenant, nous sommes plus d'un an après, il y a eu les conférences qui sont déroulées l'année dernière, il y a eu ce voyage à Jérusalem auquel beaucoup d'entre vous participiez, et puis il y a la suite de ces conférences aujourd'hui, demain, le site, et l'année prochaine, il est prévu donc également de poursuivre évidemment sous forme de conférences, de soirées, d'études, peut-être mensuelles, enfin selon un rythme qui vous sera donné dorénavant grâce au site, ce sera plus facile de communiquer. Voilà, donc aujourd'hui, vu le retard, je vais faire très bref pour présenter nos deux invités, donc Ephraim Herrera qui est historien, docteur en histoire des religions, qui s'est beaucoup intéressé notamment à l'islam, qui par ailleurs a publié deux tomes des étincelles de Manitou, vous devez connaître, évidemment que je vous recommande, le tome 2 étant sorti très récemment, je crois, et qui nous parlera du thème du jour qui est les engendrements, avec ce sous-titre pour cette conférence, le sens de l'histoire et la logique de la providence. Puis dans un deuxième temps, donc, on poursuivra sous une autre forme avec le Rav Ori Cherki, qui est donc ici également, sur la notion de double messianisme. Vous savez que dans la tradition, il y a deux messies, un messie fils de Joseph, un messie fils de David, en l'occurrence Joseph-Judas. Et vous allez nous expliquer, Rav Cherki, où nous en sommes de ce déploiement messianique, sans doute dans l'histoire. Je crois que vous êtes un des acteurs, finalement, on peut le dire peut-être, de ce déploiement, puisque vous m'avez confié que vous alliez rencontrer un proche du Premier ministre pour israélien pour tenter de donner une visibilité institutionnelle à tout votre travail autour des Bnei Noar et de la possibilité de leur donner une position, on va dire, juridique dans le système juif en général. Je pense que je résume peut-être un peu trop, mais je pensais justement avec vous faire une séquence qu'on pourra voir sur le site aussi sur ce thème très spécialement qui rencontre un très grand retentissement partout dans le monde. Curieusement, dans certains pays plutôt que d'autres. Enfin, vous nous le direz, Rav Cherki, dans cet entretien. Donc, demain, notez-le tout de suite pour ceux qui... demain, c'est à 18h également. On commencera bien à l'heure parce que le Rav Cherki doit repartir à Jérusalem rapidement. Donc, on commencera vraiment à 18h, disons 18h02 ou 3, au centre communautaire, là-bas, rue Lafayette, où nous étions la dernière fois. Voilà, Ephraim Herrera, si vous voulez, je vous laisse tout de suite la parole. Il y a un deuxième micro qui, je pense, fonctionne. Il va falloir le tenir. Et nous vous écoutons donc pour le sens de l'histoire et la logique de la providence pour une cinquantaine de minutes. C'est le contrat qui a été passé.
Merci beaucoup. Bonsoir.
Ah, voilà, c'est reparti. Alors, celui-là
marche. Merci. Donc, voilà, je vais vous parler du thème des engendrements et du centre de l'histoire et de la logique de la providence. Je m'excusais d'avance auprès du Rav Uri Cherki, parce qu'il doit certainement savoir mieux que moi exposer ce thème. Et je remercie tous ceux qui sont venus. Et il y en a qui connaissent la pensée de Manitou au moins aussi bien que moi. Donc je vais essayer d'être clair et de renouveler quelques significations et quelques sens. Donc vous savez bien que le sujet des engendrements est un sujet qui était très cher à Manitou. Il y a consacré des dizaines d'heures de cours directement et il le rappelle dans des centaines d'heures de cours. Et il est très important. J'essaie de présenter ce soir en quoi ce thème éclaire le sujet de la providence divine, qui est le sujet finalement le plus difficile dans l'étude de la Torah. Et je crois qu'il donne une approche cohérente et satisfaisante à ce sujet. C'est ce que je vais essayer de montrer ce soir. Le problème ne se limite pas à l'étude classique qu'on en fait, qui est ce qu'on appelle en hébreu « racha vetovlo tzadik veralo », le méchant à qui arrive du bien et le juste qui souffre, comme c'est traité dans le Talmud Bavli dans Brachot. Je vais rapporter la formulation du Ramchal, le Rav Moshe Chaim Luzzatto, qui était un des grands maîtres du début du XIXe siècle, en Italie, puis après en Hollande, et enfin en Israël, qui le présente dans la première source que vous avez, qui est le Da'at Tevunot. Hein. Ceux qui n'ont pas les sources, de toute façon, je vais le lire, et ceux qui ont les sources vont pouvoir le suivre de manière plus facile. Je m'excuse d'avance des défauts de traduction. J'ai appris récemment que le Da'at Tevunot a été traduit en français, mais comme je n'avais pas accès à la traduction en Israël, j'ai fait ma traduction moi-même, vous corrigerez. Le Da'at Tevunot du Ramchal est un livre, c'est une discussion, un dialogue entre l'âme et l'intellect. Et un des deux pose les questions et l'autre donne les réponses. Qui pose les questions? Hein? Voilà, on le donne en mille, hein, mais c'est l'âme qui pose les questions et c'est l'intellect qui répond. Hein. On est déjà en opposition de phase avec la conception religieuse classique. Alors, oui, là c'est le contraire, mais c'est pour ça que je le précise. Parce qu'en général, c'est l'âme qui ne comprend pas et c'est l'intellect qui répond. Et donc de manière dialectique, il pose les questions. Alors l'intellect demande, qu'est-ce qui t'est difficile dans ce sujet, dans le sujet de la providence, de l'ashgaha? Alors l'âme répond, les grands événements qui se produisent dans le monde, à mesibot, à gedolot, à mitapechot ba'olam, qui semblent toujours prouver l'inverse de la providence. Quand on observe le monde au niveau des événements qui s'y passent, on a l'impression que c'est non seulement que ce n'est pas un monde sans providence, c'est un monde dans lequel on a l'inverse de la providence. Et plus encore, je continue à citer le Ramchal, que la réflexion ne voit pas de fin à cette chose-là, comme si c'était un monde dans lequel on vit où il n'y a pas de finalité. À quoi elles arrivent? Que veut le maître du monde de ses créatures? On ne comprend pas quelle est la volonté du créateur. Et vers quoi il les mène, et quelle est la finalité de tout cela. Donc et ça, c'est un regard honnête de l'âme sur le monde. Hein. Il n'y a pas plus honnête qu'une âme, et en plus, quand elle va parler avec l'intellect, elle va essayer d'être honnête, et elle a un problème qu'elle n'arrive pas à résoudre, elle ne comprend pas comment fonctionne la providence. On a ce même étonnement dans Baba Batra, à la page 50, où il y a un des maîtres qui dit que quand il est arrivé pour une période brève dans l'autre monde, il a vu que les méchants étaient les justes, ceux qui sont en bas dans ce monde sont en haut dans l'autre monde. Alors ça a l'air d'être une opposition aussi. Le premier élément de réponse qu'apporte Manitou, et qui est un terme récurrent et très très important dans l'enseignement qu'il nous a donné, c'est que l'homme n'est pas. Il est en devenir. Hein, Nietzsche faisait une réflexion sur Descartes en disant, quand il dit « je pense donc je suis », qui est ce « je » qui pense? Mais la question qu'on devrait poser, c'est quoi « je suis » Je ne suis pas, je suis en devenir. Hein, c'est le principe de base. Ce thème est tellement peu fréquent dans les discours des rabbins, que j'ai déjà entendu, y compris de spécialistes de Manitou, dire que c'était un chidouche de Manitou, un renouvellement de sens. Alors, ceux qui ont l'habitude des cours de Manitou savent que c'est impossible. Pourquoi ? Parce que chaque fois que Manitou a fait un chidouche, a fait un renouvellement de sens, il a dit « je n'ai pas de source ». Et si vous en trouvez une, envoyez-moi un télégramme, téléphonez-moi. Or, il ne l'a pas dit pour ça, donc il a une source. Hein, un des travails de base, c'est d'aller les chercher. Donc, une fois qu'on les cherche, on les trouve. Et donc, je vais le rapporter à une source fondamentale. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Mais une des sources fondamentales, c'est un autre livre du Ramchal qui s'appelle le Klar Pitre Chochma, donc les 138 portes de la sagesse, comme ça a été traduit en français. C'est un livre intéressant parce qu'il est composé en deux parties. Il y a des ptachim, des ouvertures, comme ça, très courtes, et puis un commentaire très long de l'auteur lui-même. Hein, donc quand vous avez un sage d'Israël qui parle de manière brève, sachez que toujours derrière, il a beaucoup à dire et il a présenté qu'un résumé. Alors voilà ce qu'il écrit dans le Klar Pitre Chochma, dans la source 2 que vous avez. La finalité de la création du monde est qu'il, à savoir Dieu, prodigue le bien, à la mesure de son désir du bien, un bien absolu. D'accord, le but que Dieu donne à son monde, c'est de lui prodiguer du bien. Et il explique, le Ramchal lui-même explique ce qu'il veut dire avec cette phrase. La finalité de la création du monde, c'est simple, car il est clair que celui qui agit, agit dans un but. Donc si Dieu a créé un monde, c'est impossible qu'il soit absurde. Donc on remet déjà en cause la question de l'âme dans le Da'at et Evunot. C'est impossible que si Dieu a créé un monde, il ait créé un monde absurde. C'est un monde qui a un but clair. Et qu'il prodigue le bien, ce qui signifie pas pour son besoin, car il n'a pas besoin de ses créatures. Donc Dieu donne pas pour recevoir, contrairement aux conceptions idolâtres classiques. Mais la création est en vue de leur prodiguer le bien. Donc comment le projet divin doit-il se réaliser? C'est en le découvrant qu'on va comprendre grâce au Maharal que l'homme est en devenir. Donc je continue à lire la source. C'est quelle source ici? On a la source 3, hein, pour ceux qui ont le texte. Vous l'avez aussi en hébreu hein, dans la source, mais je le lis directement en français. Dieu est certainement le bien absolu. Et la règle du bien est de donner le bien. Ce que Manitou définissait comme bénéfaction, c'est donner un surplus d'être. Hein. Le bien, c'est donner. Mais pas au niveau de faire une bénédiction magique, c'est une bénéfaction, donc c'est faire du bien. Et c'est ce qu'il a voulu, ce que Dieu a voulu, créer des créatures à qui il pourra donner le bien, car s'il n'y a pas de récepteur du bien, aucun bien ne peut être donné. S'il n'y a pas de créature pour recevoir le bien, alors à qui Dieu va-t-il donner ce bien? Toutefois, afin que le bien donné soit total, il savait dans sa grande sagesse qu'il fallait que ceux qui le reçoivent, donc ce bien, le méritent par leur travail. Pourquoi ? Car seulement dans ce cas, il posséderait ce bien. L'idée, c'est que le bien que l'homme va recevoir soit un bien mérité, et pas un bien donné gratuitement. On n'est pas du tout dans l'optique, par exemple, protestante de la grâce, du don gratuit. Il y a un mérite qui est obtenu par le travail. Et on va voir quel est le genre de quel travail il s'agit. Et il ne reste pas de honte à recevoir ce bien, comme c'est le cas pour quelqu'un qui reçoit l'aumône d'un autre. Quelqu'un qui est normal, qui reçoit une aumône, il a une honte de recevoir ce don qu'on lui donne. C'est ce qu'ont enseigné les sages dans le Talmud de Jérusalem. Hein, c'est écrit en araméen, c'est rare, mais ça arrive. Celui qui mange de ce qui ne lui appartient pas a honte de regarder la face de celui qui lui donne. Man de achil de la dile, bahit le istakula be'ape. Donc on voit bien que si Dieu ne veut pas faire honte à l'homme, il faut que l'homme ait un mérite à recevoir ce bien que Dieu veut lui donner. Quel va être ce mérite? Alors là, voilà, vous l'avez explicitement, donc la source possible de Manitou. Il a peut-être appris d'autres textes, hein, je ne sais pas. Alors, mais on va le lire ici, pour dire que ce n'est pas une invention de Manitou. De cette introduction, on obtient un principe important à méditer, le manque et sa complétude. J'ai toujours un problème à traduire Shlemut, Ashlama. Manitou n'aimait pas le terme de perfection, donc je m'en suis pas servi. Mais on pourrait dire complétude. Je crois que c'est un terme qui correspond bien. Il faut maintenant savoir quel est le manque et ce qui en découle. Et quel est le tikkun? Le tikkun, on ne peut pas appeler ça comme l'hébreu moderne. Hein. Tikkun en hébreu moderne, c'est réparer. Mais là, dans la notion de tikkun, c'est pas une notion de réparation. On a un être qui n'est pas complet, qui va se compléter, ça c'est le tikkun. Hein? Manitou en parlait souvent avec la Torah de Moshe par rapport à la Torah de Aaron. La Torah du tikkun par rapport à la Torah de la teshuva, de la kapara.
par lequel la création va arriver à sa complétude et par quel chemin le réaliser et ce qui en découle. L'Éternel, source de bénédiction, hein, j'aime quand on dit Baruch Hu Manitou traduisé source de bénédiction, parce que si c'est qu'il est béni, qui le bénit ? Béni soit-il, par qui ? Aurait certainement pu créer l'homme et toute la création complètement achevée. Plus encore, c'est ainsi que ça aurait été digne de lui, car complet dans toutes les facettes, de manière absolue, il aurait été convenable que ses actions soient aussi complètes et achevées parfaitement. Dieu étant parfait, il aurait dû créer, s'il avait créé l'homme à sa mesure, à lui, il l'aurait créé parfait. D'accord ? C'est ça la logique. Or, on n'est pas parfait, on le sait bien, nous tous, on n'est pas parfait. Donc, il y a une question qui est posée. Mais comme l'a décrété sa sagesse, il a laissé à l'homme le travail de se parachever lui-même. On voit bien donc que le projet, c'est pour que l'homme mérite son être, il lui a laissé le travail de compléter son être par lui-même, par son travail. Donc on voit bien que Manitou n'a rien inventé. Alors où est le génie de Manitou ? C'est d'avoir formulé et de l'avoir expliqué en termes d'abord contemporains, qu'on peut comprendre, et ensuite de leur donner leur dimension profonde comme il l'a reçu de ses maîtres, et comme et on va voir tout de suite que ça ne se limite pas au niveau individuel. Donc je vous propose d'étudier ce soir quelques extraits de cet enseignement de Manitou au travers de textes que j'ai choisis, tirés de ses conférences. Une partie figure dans les tomes 1 et 2, et une partie, j'espère, figurera dans le tome 3 quand je l'aurai complété. Le premier élément, c'est qui est parfaitement en ligne avec l'enseignement du Ramchal, pour ceux qui connaissent l'enseignement du Ramchal, parle de l'homme en général. Hein, ça ne parle pas de l'individu. On n'est pas du tout dans une complétude qui est individuelle uniquement. Elle est vraie aussi au niveau individuel, mais elle est principalement au niveau de l'humanité et de la création dans son ensemble. Ça ne se limite pas donc ni à un individu, ni à une communauté, ni à une nation. Et le projet de la réussite de l'homme est un projet universel, visant à la réussite de l'humanité entière, hein, même pas seulement Israël. On va lire la source 4 du tome 1 des Étincelles. Ce n'est que lorsqu'Israël est une nation, une collectivité, que la Torah a été révélée. Hein, c'était une question qu'on attribue à Napoléon qui aurait dit s'il y avait une religion qui avait été révélée au premier homme, alors j'y aurais adhéré. Hein, mais comme il n'y en a pas de comme ça, j'adhère à aucune. D'accord ? Alors la question qui est posée, c'est une vraie question. Hein, que ce soit Napoléon ou pas qui l'ait posée, c'est une vraie question. Donc la réponse est claire. Tant qu'il n'y a pas un groupe d'hommes à qui révéler le projet divin, alors il y a impossibilité de révéler le projet divin. Parce que le projet divin ne s'adresse pas à l'individu, uniquement. Pourquoi ne commence-t-on pas par Abraham ? La question reste posée au niveau du peuple d'Israël. Dès qu'il y a Abraham, ça aurait été possible. Parce qu'Abraham est une personne individuelle. La Torah ne s'adresse jamais à l'individu comme individu. Ce n'est pas une religion de salut personnel, de salut individuel. C'est une religion pour la collectivité, parce que seule une collectivité peut représenter l'universel. Donc c'est pour Israël, mais même Israël, ce n'est pas pour Israël lui-même, mais c'est dans le but de la réussite du projet divin qui touche la création dans son ensemble. On notera que Manitou indique bien, les sources ne manquent pas chez les sages, que la Torah n'enseigne pas une religion de salut personnel, de salut individuel. Je voudrais rappeler un enseignement classique que Manitou aimait rapporter. Chaque fois que la Torah parle au singulier, par exemple Shema Israël, ça s'adresse à toute la collectivité. Quand ça s'adresse à chaque individu spécifiquement, alors la Torah parle au pluriel. On continue la lecture de la source 4. La Torah se révèle à une collectivité qui doit être le modèle. Hein, donc c'est ça l'idée d'Israël, servir de modèle aux nations. Et non pas imiter ou communier avec un modèle symboliquement ou magiquement. La Torah ne commence à être révélée que lorsqu'Israël est une nation, une collectivité, parce qu'il s'agit du salut de l'humanité, de l'universel humain. Et seule une collectivité peut représenter l'universel humain. Il ne s'agit pas de faire une église de saints, de sauvés, d'élus. Hein, c'est pas de ça qu'il s'agit. Hein, Manitou disait souvent que c'est le système par lequel l'antisémitisme fonctionne. Vous dites que vous êtes des saints, or, on voit bien que vous ne l'êtes pas, donc vous méritez ce que vous... Je passe la suite. Donc, non, on est une collectivité qui, au niveau de l'ensemble, a cette dimension de sainteté. Chacun doit l'être au niveau individuel, mais c'est au niveau du collectif que ça se réalise. Un peuple a pris sur lui la tâche de jouer le salut du monde à travers sa propre histoire au nom de l'universel humain. Chaque personne qui participe d'Israël a, de manière explicite ou implicite, sa part, prend part à ce projet divin. Le simple fait qu'il adhère à Israël, en ça, il prend part à ce projet. Manitou va plus loin en expliquant que la Torah d'Israël véhicule ce message universel et que son message s'adresse à l'humanité entière. Le message de la Torah n'est pas un message qui est limité à Israël. On pourra se référer au verset 5 du Deutéronome à propos de « Oïl Moshe Be'er et Torah Azot » et à ses commentaires sur ce sujet. On va se contenter ce soir ou bien au deuxième chapitre du livre d'Isaïe et ses commentaires. On va lire la source 5 qui est elle aussi tirée du tome 1 des étincelles. La Torah est universelle. Il s'agit de la révélation du Dieu unique, le créateur de tous les univers. Notre Dieu unique n'est pas le Dieu tribal qui a fondé une religion de la tribu des Bédouins juifs. Voilà Manitou le formule de la manière la plus crue possible. Par conséquent, sa parole est universelle, donc elle a une dimension de vérité concernant tout aspect de la réalité humaine. Tous les hommes sont des hommes. Et la Torah leur parle à travers Israël. La Torah leur parle à travers Israël. On est le véhicule qui va transmettre le message divin à l'humanité dans son ensemble. Dans son livre Da'at Tevunot, le Ramchal base ce point central sur ce point cette explication, son explication de la providence. Et après, on va le retrouver chez Manitou. Mais ce point central, je vais le formuler. Si Dieu a créé le monde avec un but précis, il y a un but à la création, et que c'est le parachèvement de l'homme, la complétude de l'humanité et de toute la création, alors le critère de la providence va être clair. Quel va être le critère de la providence? Ce qui va dans le sens de la réalisation de ce projet va être soutenu par la providence. Ce qui ne va pas dans le sens de ce projet, ou contre le sens de ce projet, va être brimé par la providence. Donc c'est ça qui va être le critère de l'intervention ou du rapport de Dieu aux actes des hommes. L'adéquation du comportement de l'homme à la réalisation du projet. Je pense que c'est cette idée maîtresse sur laquelle repose finalement tout l'enseignement de Manitou sur les engendrements. On va lire la source 6, qui est un extrait d'un cours sur les 10 générations d'Abraham à Noé. On va en faire une lecture rapide à la lumière de l'introduction que je viens de donner. La conscience de l'histoire humaine, du point de vue des intuitions de la messianité, peut être définie de la manière suivante. L'histoire humaine est une histoire préalable à l'être. L'être achevé, l'être complet, c'est ce qu'on est en train de construire maintenant. Iketnouk. C'est ce qu'on est en train de construire au travers de toutes les générations, depuis le premier homme jusqu'à cette complétude achevée. La fin de l'histoire, entre guillemets, de cette histoire, de ce monde. Pour employer une image, tout se passe comme si cet engendrement n'est pas encore abouti. Et on nous décrit les différentes étapes qui doivent mener à l'engendrement ultime de l'homme réussi, c'est-à-dire d'une identité humaine qui aura réussi à représenter réellement ce qu'a été le projet du Créateur. On en devenir, et l'humanité elle-même travaille à créer, à réaliser cet homme réussi. C'est le projet de la messianité. On pourra l'étudier, par exemple, dans le Zohar, de manière plus détaillée, « Asher bara Elohim la'asot », c'est ce qu'on dit le vendredi soir et dans la prière du Shabbat, que Dieu a créé pour faire. L'homme a un travail à faire dans ce septième jour dans lequel on vit. Ce terme de Toladot, qui revient très souvent à travers tout le texte biblique, est cette notion que le récit cherche à mettre en évidence dans les moments stratégiques de cette histoire, les charnières où l'on perçoit qu'il y a modification de l'identité. Manitou expliquait qu'il y a des générations où finalement il n'y a pas un gros travail. Il suffit de poursuivre la ligne que nous ont indiqué les pères. Et à ce moment-là, les fils suivent la ligne des pères et il n'y a pas grand-chose de spécifique à changer. Mais il y a des générations qui sont des générations charnières. Particulièrement, quelles sont ces générations charnières? C'est les générations de fin d'exil, du passage de l'exil à ce qu'on appelle la Géoula, donc la délivrance. Ce sont des générations où il faut tout remettre en question, où les valeurs qui étaient vraies pour une époque ne sont plus adéquates. Elles ont leur vérité absolue, mais elles ne correspondent pas à l'époque qu'on est en train de vivre. Il faut changer. Il y a autre chose à faire pour être en adéquation avec le projet divin. Je continue à citer Manitou dans la même source. Et le jugement apparaît dans la mesure où il faut savoir si cette modification va vers la réalisation du projet, ou si au contraire c'est une impasse ou une tangente, ou une régression ou un échec. Il y a une forme réussie, et il y a toutes sortes de formes non réussies, qui peuvent être en direction opposée, ou bien dans une tangente, c'est-à-dire une ligne qui ne va pas être exactement la bonne ligne. Au début, l'angle est constant. Donc il va être, mais la distance absolue entre la ligne droite et ce que Manitou appelle la tangente, c'est une ligne qui dévie. Au début, la distance est très faible, mais à court terme ou moyen terme, on va se retrouver complètement hors de la ligne du projet divin. Ou bien des impasses. Nous sommes d'emblée mis en présence d'une cohérence qui cherche à établir la carte d'identité de l'être humain en cours d'histoire avec ce critère. Est-ce que cela va dans le sens de la réussite, ou est-ce que, au contraire, le jugement établit que cela va vers une impasse ou vers un échec? C'est donc une notion de sélection qui est introduite dans la notion d'engendrement. Sélection, ceux qui ont pris la bonne direction et ceux qui ont pris la mauvaise direction. Et des fois, la bonne direction a l'air d'être une mauvaise direction au départ, et puis finalement, il s'avère, après coup, que ça a été une grande réussite. Et très souvent, c'était une minorité qui l'avait prise, cette direction. Comment on sait, a posteriori? Parce que ça va être à chaque fois des grands d'Israël qui vont prendre une direction ou une autre, et il y en a qui vont se pourvoyer, il y en a qui auront pris la bonne direction. On ne nous raconte pas seulement les péripéties qu'ils se marièrent et eurent des enfants, des petits d'hommes. Dans cette idée d'engendrement de Toladot, on cherche par où passe la modification de l'identité humaine, en vue d'un point d'aboutissement qui est la définition même de la conscience de messianité. Ce qu'on cherche, c'est qui va engendrer l'identité de la génération d'après, qui, elle, va savoir prendre la direction qu'il faut. Parce qu'à chaque génération, de facto, il y a un changement, qu'il soit léger ou qu'il soit plus profond, il y a une réorientation à faire pour être en phase, en harmonie avec le projet divin. La providence s'intéresse bien moins aux événements, qui pourtant, en général, les événements, c'est ce qui fait les livres d'histoire. Vous prenez un livre d'histoire classique, il raconte, il rapporte des événements. Vous prenez la Torah, elle ne rapporte pas les événements. Qu'est-ce qu'on sait dans la Torah de la civilisation d'Ur Kasdim, de laquelle sort Avraham? Rien. Rien n'est dit sur la civilisation, ou pratiquement rien sur la civilisation d'Ur Kasdim. Par contre, pour Avraham, on nous raconte des détails qui ont l'air anodins. Non, parce que ce que fait Avraham, c'est ça qui est la direction qui finalement va s'avérer la direction pour toute l'humanité. Les valeurs qu'a apporté Avraham au monde sont les valeurs qui sont vraies et considérées comme vraies jusqu'à aujourd'hui. Il a posé des bases, et ensuite Yitzhak, et ensuite Yaakov, et ensuite les enfants d'Israël. À chaque génération, il y a justement ce renouvellement d'être, cette construction supplémentaire qui est ce qui intéresse la Torah, et pas l'événement. Je continue à citer Manitou. La notion de Adam pour désigner l'identité humaine porte avec elle cette notion de Ben Adam, le fils de l'homme. Et l'histoire du Adam est l'histoire de l'engendrement du Ben Adam. Le Ben Adam, ce sera le fils de toutes ces générations, depuis la première jusqu'à la dernière des générations de ce monde, jusqu'à amener l'humanité à sa situation, à son état réussi. On comprend maintenant les questions de l'âme. L'âme, elle est individuelle. Donc elle n'arrive pas à embrasser cette notion qui est un projet d'humanité. Et donc quand elle regarde le monde avec ses critères individuels, elle ne comprend pas. Elle voit l'inverse de la providence. Parce qu'elle n'a pas les clés qui lui permettent d'analyser les raisons de l'évolution du monde et de ses progrès. Je vous donne un exemple pour comprendre cette complexité, comme Manitou a eu le génie de le faire. Avec un dossier qui était particulièrement cher à Manitou, qui est le sujet du sionisme. C'est un sujet qui est triplement intéressant. Il y en a au moins triplement intéressant. Le premier, d'abord, c'est qu'il élargit le champ de la providence au-delà du niveau individuel. Et on l'a vu déjà avec le Ramchal, on l'a vu avec Manitou, que c'est ça qui est important. Le second, c'est qu'il est d'une actualité brûlante. Ça nous concerne à tous. Et le troisième, c'est qu'il illustre de manière exemplaire, à mon avis, justement cette notion du rapport entre les engendrements et la providence. Je vous propose de lire la source 7, qui est extraite du tome 2 des Étincelles. Il y a une tradition en Israël. Hachem Elohei Israël, sans Moïse, c'est le Dieu de la promesse que l'exil prendra fin et qu'Israël entrera en Israël. Hein, si on prend la révélation d'Abraham, quand Dieu lui annonce que sa descendance va être dans une terre qui ne lui appartient pas, hein, il lui dit, et à la fin, ils reviendront. Dorevi, Ashuvu Henna, la quatrième génération reviendra. Donc, quelle est l'idée? Vous allez être en galoute, en exil, et vous reviendrez. Voilà le Dieu, je continue à citer Manitou, voilà le Dieu que les Hébreux connaissaient en Égypte, par tradition des patriarches. Ils avaient, si vous voulez, un ancien testament, entre guillemets, le testament de Joseph. Hein, Elohim, Pakod, Ifkod, Etrem. Hein, il se souviendra de vous et il agira de manière à vous délivrer. Manitou avait eu une fois un débat avec le professeur Leibovitch. Et le professeur Leibovitch disait que Dieu n'était pas le pakid, le fonctionnaire chargé de l'histoire. Alors Manitou lui dit, pourtant il y a un verset explicite, « Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem ». Donc voilà, Dieu s'occupe de l'histoire. Le catéchisme d'Israël en Égypte sans Moïse est qu'il arrivera un temps où l'exil prendra fin et les Hébreux quitteront l'Égypte et arriveront en Israël. La religion des Hébreux en Égypte était le sionisme. Hein, si on prend le début de la paracha de Vaera, hein, Dieu se révèle à Moïse et lui dit le projet qu'on lit dans la Haggadah de Pessah, avec les quatre langues de la délivrance, il n'y a aucun rappel du don de la Torah. Aucun rappel du don de la Torah. Il y a juste ce que les Hébreux connaissaient qui aurait leur délivrance de cette situation d'exil. C'est un point fondamental parce que ça montre l'importance de la terre d'Israël et de l'indépendance d'Israël sur sa terre. Et ça, c'est dans le cadre ontologique de la réussite du projet divin. Ce n'est pas une notion seconde. Je crois qu'Israël a parfaitement intégré la notion de la sainteté du temps, hein, avec Eshel et d'autres. On a bien compris le Shabbat, les fêtes, leur importance. On n'a pas encore, à mon avis, perçu suffisamment la sainteté du lieu. La notion de la sainteté d'espace est une notion qui nous est encore étrangère. J'espère qu'avec notre renaissance nationale, on va commencer à mieux le comprendre. D'ailleurs, c'est la première parole que Dieu donne à Avram. Hein. Quand Dieu commence à parler à Avram, qu'est-ce qu'il lui dit? Lech lecha. Hein, va où? Vers la terre. Hein, il n'y a pas dit « sois religieux ». Je crois pas. Hein. Et qu'est-ce qu'il lui a dit là-bas? « Je ferai de toi un peuple. Goy gadol ». Il n'y a pas dit « je ferai de toi une grande église ». Et cet ordre est répété au patriarche. Il est donné au peuple d'Israël. Et c'est ce que rappelle Moïse donc dans le chapitre 6 de l'Exode. Continuons à lire la source 7 de Manitou. Et voilà qu'arrive Moïse, celui même qui va les libérer, et il leur donne une Torah, une loi. D'accord ? Donc ça, c'est nouveau, c'est un phénomène inattendu, le fait qu'on reçoit une loi. À cette chose-là, les Hébreux ne s'attendaient pas. Donc si nous devons définir ces deux expressions, Hachem Elohe Moshe, c'est le Dieu de la loi, car Moïse leur apporte une loi, et Hachem Elohe Israël, c'est le Dieu de la foi. La foi d'Israël, c'est le sionisme. La loi d'Israël, c'est la Torah. Poursuivons la lecture de Manitou. Quel que soit le paradoxe apparent, c'est le sionisme qui est la foi d'Israël. Et ce qu'on appelle la religion, c'est la loi. La foi qu'avaient les Hébreux est ce qu'on appelle en termes contemporains le sionisme. C'est ça la religion vraiment du point de vue de la foi. Et ce que les sionistes appellent aujourd'hui la religion, c'est le Shulchan Aruch, hein, c'est la loi. Il faut bien comprendre que l'espérance du salut dans la catégorie de la foi et l'espérance du salut dans la catégorie de la loi, ce n'est pas la même chose. C'est un problème permanent. Avec l'épisode du christianisme, on voit ces deux catégories se différencier. La religion chrétienne est une péripétie de cette histoire où la loi est dissociée de la foi. On a séparé entre la loi et la foi. En Israël aujourd'hui, les non-religieux sont les hommes de la foi et les religieux les hommes de la loi. Paradoxe du vocabulaire. Hein ? On remet les pendules à l'heure, comme avec l'âme dans le texte du Ramchal. Manitou remet les pendules à l'heure où il y a l'inverse de ce qu'on croit, ce qu'est la loi et ce qu'est la foi. Les sionistes contemporains non-religieux sont animés par une foi exceptionnelle, puisqu'ils n'ont même pas un intérêt religieux. Hein, ils ne se prétendent pas religieux, ou des fois ils se prétendent athées, ou même anti-religieux. C'est la foi que l'histoire d'Israël n'a de sens que dans le retour en Israël. C'est la condition sine qua non. Et c'est ça, Hachem Elohé Israël. Moïse s'adresse à un peuple dont toute la foi consiste à être sioniste dans le sens moderne du terme, pour lui apporter une loi. Alors il y a eu contestation. On lui a dit, on ne te croit pas. On veut voir que Dieu, quand il se révèle au Sinaï, nous dit effectivement ce que tu nous dis. Donc Manitou nous remet bien les pendules à l'heure. Je vais vous poser une question pour vérifier si j'ai été suffisamment clair. Il y a un texte dans le Tana de Beliaou Rabba. Hein, c'est un midrash de l'époque de la Gemara qui est cité souvent dans la Gemara. Il y a une question qui est posée là-bas, dans le Tana de Beliaou Rabba. Est-ce que la Torah est pour Israël ou Israël est pour la Torah? Alors, qui est-ce qui sert qui? La Torah, Israël ou Israël, la Torah? Qui est-ce qui est pour que Israël sert la Torah? Voilà. Et pour la Torah sert Israël? Voilà, il y a peu de monde qui répond, hein, c'est ça le principal, mais il y a à peu près égalité. Oui, il y a les abstents sionistes. Alors là-bas, il y a une discussion entre la personne qui pose la question et un jacquin, un sage, qui lui dit « Si tu poses la question, la plupart des gens te diront qu'Israël est pour la Torah. » Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est la Torah qui est pour Israël. D'où on peut le sortir au niveau de la preuve? Ben, par exemple, on transgresse le Shabbat pour sauver un enfant d'Israël. Et quelle est la raison évoquée, à part Vachai Bahem? La raison évoquée, c'est que s'il n'y a pas Israël pour faire le Shabbat, hein, à quoi elle sert la Torah? Donc les sionistes réalisent le mieux la volonté divine. Bien que nombreux d'entre eux, comme en disait Manitou, ils respectent les mitzvot, mais de loin. ils ont bénéficié d'une aide divine comme on n'en a pas eu depuis 2200 ans. Jamais l'aide divine n'a été aussi massive qu'avec le sionisme. Hein, on n'a jamais vécu aussi bien. On était ensemble avec le Rav Cherki au Kotel pour fêter le Yom HaAtzmaout. Et il y avait le Rav Ben Dahan, qui est l'adjoint au ministre de la Défense en Israël, qui a rapporté le Nachmanide, qui raconte, Nachmanide, c'est un grand commentateur de la Torah, un grand Mekoubal du XIIIe siècle, hein, si je ne me trompe pas, et qui disait que lors d'une visite à Jérusalem, il y avait difficilement minyan. Ils avaient du mal à trouver le minyan, à racoler les 10 personnes pour faire la prière. Et le Rav Ben Dahan a dit qu'il a compté 1200 synagogues aujourd'hui à Jérusalem. D'accord. C'était son estimation personnelle. Depuis, j'ai été voir Jackie Levy, qui est un humoriste israélien, et qui avait toutes les semaines publié dans Kolaïr, qui était un hebdomadaire publié à Jérusalem. Il avait un article où il parlait des synagogues de Jérusalem. Alors il dit qu'il y a près de 2000 synagogues à Jérusalem. Hein, par rapport à la situation du Ramban, on voit où on était et où on est maintenant. Hein. Manitou nous a enseigné que la massivité de l'événement, rassemblement des exilés de, je sais pas, une centaine de pays, la proclamation de l'indépendance de l'État, les victoires fulgurantes contre les ennemis, ces événements-là, c'est ça les signes. On n'a pas besoin de signes quand on a l'événement. Pourquoi faire un signe quand l'événement est là et massif? Je vais lire la source 8. J'espère qu'elle paraîtra bientôt dans le tome 3. Je ne vais pas la lire en entier parce que sinon je vais prendre le temps du Rav Cherki et c'est pas sérieux. Si on se confronte à l'événement qu'après 2000 ans, l'indépendance nationale juive revient à l'événement dans sa massivité, on se rend compte qu'il y a un problème de fond. Ceux qui n'y croient pas, en quoi croient-ils? Ceux qui ne croient pas, ils voient l'événement, ils disent « Ah non, ça c'est pas Dieu ». Si c'est pas Dieu qui l'a fait, qui l'a fait? Je me rappelle une fois, j'étais dans une synagogue charédite, juste après le tsom de Tanit Esther. On avait donc il y a le jeûne de Tanit Esther, et en général, souvent dans les synagogues à Jérusalem, pour casser le jeûne, tout de suite après Arvit, il y a une petite collation. Et là-bas, il y avait un rabbin donc, qui a commencé à parler. Il expliquait la Megillat Esther en disant « C'est magnifique dans la Megillat, Dieu intervient tout le temps. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu qui le fait, bien que ce ne soit pas rappelé de manière explicite. » Alors je suis intervenu, je lui ai dit « Sauf le sionisme
!» Il a dit quoi ? Il a répondu quoi ?
Qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde ? Il n'a rien répondu. C'est pas... Sauf le sionisme, voilà, exactement. Il n'a pas dit « Ah non, je vous crois, j'ai compris. » Non, non, je n'ai pas eu cette chance. On continue à lire Manitou. Il y a un problème très grave, c'est ces juifs religieux qui ne croient pas en Dieu. Ils sont très religieux, mais ils ne croient pas en Dieu. Je parle du Dieu d'Israël, bien sûr. Hein, quand il dit « Je ne crois pas en Dieu », je me rappelle d'étudiants, quand je discutais avec des jeunes au Ternion, et qui me disaient qu'ils croyaient pas en Dieu, je leur disais « Le Dieu dans lequel vous ne croyez pas, je n'y crois pas non plus. Hein ». Il y a ici un spécialiste du professeur Levinas. Je me rappelle d'un texte qu'il avait écrit à propos de la Shoah, où il disait à peu près, hein, je n'ai pas la classe du professeur Levinas ni la mémoire du Rav Uri Cherki. T'as vu, superlatif. Et il disait, mais de qui avez-vous peuplé les cieux, vous qui les déclarez aujourd'hui vides de Dieu ? Quand on se trompe sur qui est Dieu, alors on croit peut-être dans un Dieu, mais qui n'est pas le Dieu d'Israël. C'est dramatique pour eux d'ailleurs. J'en connais plusieurs qui sont mes amis, qui sont très malheureux, parce que la réalité dément leur fidélité à des caprices. Hein, en fait, ils ne sont pas d'accord avec Dieu. Le fond du problème, c'est que quelqu'un insiste à ce qui se passe pour Israël depuis 50 ans, après 2000 ans d'exil, après la Shoah. C'est tellement massif, et qu'il n'arrive pas à se rendre compte que c'est Dieu qui fait cela. En quoi croit-il ? C'est grave. Manitou disait que c'était prévu et que ça figure dans la prière, ça me revient maintenant en direct, où dans la prière, on dit trois fois par jour, que nos yeux voient quand tu reviendras à Sion avec miséricorde. Alors Manitou expliquait, c'est quoi Vetehezena enenu ? C'est pas le fait qu'on vive cette période, il dit quand ça arrive, que nos yeux voient ce qui arrive. Le fond du problème, c'est quelqu'un qui assiste à ce qui se passe pour Israël. Hein, donc ça, je l'ai lu. Rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a des gens contemporains de Moïse qui ne croyaient pas dans les miracles de la sortie d'Égypte et qui ne croyaient pas que c'est Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Tous les grands d'Israël contemporains de Moïse étaient contre Moïse. C'est-à-dire le fait que ce soit des grands d'Israël qui soient opposés, ce n'est pas un critère de vérité. La preuve, c'est qu'à l'époque de Moïse, les grands étaient opposés. À quoi fait référence Manitou au Midrash ? Hein, qui est rapporté dans différents endroits, où à propos d'un verset, il y a marqué « Vachamushim alu bene Israël meretz Mitzrayim ». Ce qui veut dire au sens simple, « Hamushim », armés. Ils sont sortis d'Égypte en armes. Mais « Hamushim », en hébreu, il y a la racine de « Hamesh », d'accord ? Donc il dit 1 sur 5. 1 sur 5, il y en a qui disent 1 sur 50, il y en a qui disent 1 sur 500. C'est-à-dire que vous avez une majorité écrasante des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, qui a refusé de sortir d'Égypte. Qui a refusé. Au moment du charnière, justement, de ce passage d'engendrement, ils ont refusé. Et le Midrash rapporte qu'ils ont été tous, qu'ils sont tous morts pendant les trois jours de la plaie de l'obscurité. Pourquoi ? Pour ne pas les blesser, hein, pour les laisser, comment dire, pour pas qu'ils aient un mauvais nom face aux Égyptiens. Je saute un petit peu pour arriver dans les temps. Manitou dit, Hanouka, c'est la réinauguration du temple contre le grec, mais c'était une minorité de gens qui ont cru au début. Donc il rapporte, hein, en fin de compte, Yom HaTzmaout, il y a une minorité qui y croit, mais c'est cette minorité-là qui finalement restera dans la tradition. Le temps que ça prendra, je n'en sais rien, mais cela fera mal à tous ceux qui se sont trompés. Hein, ça peut prendre du temps, il y a eu des erreurs. Un des grands rabbins du 19e siècle, je ne vais pas citer son nom, mais un des grands maîtres, était convaincu que la voie du projet divin était « on va vivre en Allemagne et on va réussir à convaincre les Allemands d'être des bons Allemands. Et il faut rester en Allemagne et on s'oppose au sionisme. » Donc ça peut être une déviation grave qui s'est passée aussi à notre époque. On a d'autres cas, hein. On a d'autres cas. À propos du retour après le premier exil, donc après l'exil de Babel, les sages ont dit que quand les enfants d'Israël sont revenus de Babel, Nishara a solet nekia, la farine est restée propre à Babel. Ça veut dire qui est venu en Israël? Les délinquants, les voyous, pas les sages, ni les riches. Hein, eux, ils sont restés. Finalement, avec le temps, à qui l'histoire a donné raison? Hein, le temple a été reconstruit. Et après, pendant près de 500 ans, on est resté en Israël avec notre indépendance. Donc en fait, je vais sauter, hein, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc je vais sauter ce passage. Parce que je voudrais quand même citer le dernier verset. Je suis après une demi-heure. Bon, ça va, on va pouvoir quand même le lire un petit peu, ça va. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du caractère invraisemblable de ce manque de foi de ceux qui sont censés avoir la foi. C'est une maladie de foi, hein, comme disait Manitou. Pourquoi? Parce que finalement, il y a un événement massif d'un retour en Israël et viennent des rabbins, viennent des sages qui connaissent la Torah et qui disent non, 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 non. Hein? Crise de foi, exactement. Le Rav Cherki disait quand on pose la question à un Haredi, qui a construit l'État, il dit c'est les sionistes. Et quand on pose la question aux sionistes, il dit, qui a fait cet État? Il dit, c'est nous. Donc les deux ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu. J'espère que je n'ai pas déformé. Je vous dis les choses très sérieusement en mesurant l'énormité de la chose. Le Talmud parle des tzadikim ketane emuna, des tzadikim qui n'ont pas la foi. Ils sont tzadikim, ils pratiquent avec une minutie extraordinaire comme ce n'est pas possible, et d'ailleurs ce n'est pas possible, mais ils ne le croient pas. Il y a une hypertrophie de la halakha sur le compte du comportement de base à avoir face à notre rôle historique. La preuve, c'est que lorsque l'événement arrive, ils ne le voient pas. Sachez que c'est dramatique pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils vivent une situation schizophrène. Ils ont la réalité en face et une théorie qui ne correspond pas à la réalité. Et ils commencent à dire que c'est la théorie qui a raison et pas la réalité. Ça, c'est grave comme maladie. Hein, c'est ce que dit Manitou. La preuve, c'est que lorsque l'événement arrive, ils ne le voient pas. Sachez que c'est dramatique. J'ai des amis médecins, surtout psychiatres, qui s'occupent de ces milieux, qui sont très inquiets des désordres psychiques que cela induit dans ces milieux. Parce que quand la réalité contredit les croyances intimes, cela se transforme en traumatisme, qui la plupart du temps explique la raison de la violence dans ces milieux-là. Ces gens-là violent le Shabbat quand une voiture passe à côté de chez eux, hein, ils lancent des pierres. Et c'est d'une violence incompatible avec quelqu'un qui est censé pratiquer le Shabbat. C'est un désordre psychique qui vient du fait que la réalité contredit leurs croyances. Et comme il n'est pas question qu'ils remettent en question leurs croyances, ils remettent en question la réalité. Ça a été la base de la science. Comment la science a évolué? Elle a dit, ben, quand j'ai une expérience qui contredit ma théorie, ben, je change la théorie. C'est Popper et l'a mis en forme au niveau philosophique. Ils sont acculés à des positions extrêmement pénibles. Si ce n'est pas Dieu qui a fait ça, alors c'est le diable. Vous rendez compte jusqu'où ça va? Hein, on n'a pas de cas dans l'histoire d'Israël depuis plus de 3000 ans où il y a le diable qui fait réussir notre peuple. On n'a pas un cas comme ça. À chaque fois, quand la réussite est là, on sait que c'est la providence divine qui intervient et qui fait que ça réussit. Je me rappelle d'un enseignement du Rav Ben Ezra, qui était aussi un des élèves de Manitou, et qui disait qu'à propos de la sortie d'Égypte, il y a le temps était défini comme Arba Mochana, hein, 400 ans. Alors après, on dit non, mais c'est 210, etc. Il y a plusieurs interprétations, mais c'est le temps. Et à partir de quand ça commence et quand est-ce que ça finit, c'est ouvert aux questions. On n'est pas sûr. D'où la problématique. Pour le deuxième exil, c'était 70 ans. On savait que ça devait durer 70 ans. Mais à partir de quand? De l'exil du roi, de l'exil de la masse, à partir de quand on compte? D'où problématique. Mais le signe qu'ont donné les sages pour le troisième, la fin du dernier exil, il est clair. Ve'atem hare Israël, et vous, les montagnes d'Israël, vous donnerez votre fruit à mon peuple parce qu'ils sont revenus. Maintenant, je ne sais pas, moi j'ai un jardin, j'ai un grenadier, il pousse magnifiquement bien, j'ai un citronnier qui est aussi très beau et qui donne des fruits, il suffit de regarder. Il faut aller à Machane Yehuda, ceux qui n'ont pas de jardin. Et on le voit clairement. Donc on a une preuve tangible qui n'est plus en question d'école. On a un fait de nature qui est là. Hein, Manitou, le Rashi le rappelle à propos de Vahashim Moti, et où je rendrai la terre stérile. Il dit dans les malédictions de, enfin malédictions, dans les klalot de Bechukotai, hein, le Rashi explique que c'est une bonne nouvelle pour Israël. Quand nous on n'est pas sur cette terre, la terre ne donne pas ses fruits. Mais quand elle donne ses fruits, ça veut dire que c'est le temps du retour. Voilà. Quand Moïse vient dire Dieu a décidé de les délivrer, 4/5 des Hébreux ont refusé d'être délivrés, ils sont restés en Égypte dans la plaie des ténèbres. C'est ce que je vous expliquais. Il a fallu que Dieu se fatigue à faire des miracles pour les persuader. Et cela n'a persuadé personne. Ça veut dire quoi, se fatigue à faire des miracles? Parce que normalement, il n'y avait pas besoin. On n'aurait pas dû avoir de miracles. Hein. C'est le Dayenu qu'on dit à Pessah. S'il suffisait qu'ils nous disent, allez, c'est le temps du retour, on se déplace. Et puis on sait que, vu qu'on réalise le projet divin, on va réussir, simplement. Mais non, il faut un miracle, parce que sinon, c'est pas sérieux. C'est l'inverse. Hein. Manitou aimait citer le Galilée Zahav. Le Galilée Zahav, c'est un grand commentateur, le Rav Moscovitch, qui a un commentaire sur la Torah qui est merveilleux, qui est le livre de chevet du Rav Tzvi Yehuda. Donc, c'est un livre important. Je vous le conseille. On peut le télécharger de Sephorim pour ceux qui lisent l'hébreu. Et à propos, justement, de la sortie d'Égypte, il a une formule qui est très, très forte. Il dit, Hachem, sonne anissim v'oeva teva. Il déteste les miracles et il aime la nature. Dieu déteste les miracles. C'est en fait, il veut soutenir ceux qui agissent, mais de manière voilée, il ne faut pas qu'ils se dévoilent, parce que s'ils se dévoilent, ce n'est plus l'homme qui réalise le projet. Et à ce moment-là, quand on va recevoir, on aura honte de recevoir, puisqu'on n'aura pas fait. D'accord ? Donc c'est à l'inverse du projet, le miracle dévoilé. Donc quand ça réussit et qu'on voit que ça réussit, c'est ça le miracle. Parce que ce n'est pas nous, qui faisons, on fait un petit peu, et puis Dieu nous aide beaucoup. Hein ? Manitou aimait rapporter une parole qui était rapportée au nom de Moshe Dayan. Je ne sais pas s'il l'a dite vraiment. Il avait été interviewé après la guerre des six jours. Alors, il y avait un journaliste qui lui a dit « Dieu vous a quand même aidé un petit peu ». Alors, Moshe Dayan aurait répondu « Non, c'est nous qui l'avons aidé un petit peu ». Une autre preuve que rapporte Manitou et qui est claire, qui est une preuve indirecte, hein, c'est pour ceux que la massivité de l'événement ne convainc pas. Dans la paracha de Choukat, il l'explique, dans le cours, vous pouvez l'avoir sur tout Manitou, il n'y a que trois exils. Un par patriarche. L'exil de Babel, ça correspond à Abraham. L'exil d'Égypte à Abraham. L'exil de Babel à Yitzhak. Et l'exil d'Édom à Yaakov. Il n'y en a pas de quatrième. Il n'y a pas de quatrième. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Il nous a ramené de plus de 100 galouillotes. Dieu nous a ramenés de plus de 100 pays d'exil. Et puis maintenant, quoi? Il va nous faire ressortir pour que quand on revienne, il y ait un miracle? Alors, je vais un peu empiéter pour finir sur le cours de Ouri, mais il a tellement de sources que je suis sûr qu'il va en trouver d'autres. Je vais rapporter un midrash qui est rapporté de la Mechilta de Rabbi Ishmael. La Mechilta, c'est ce qu'on appelle un midrash halakha. Il y a deux formes de midrash. Il y a le midrash agada. Et il y a le Midrash Halakha. Le Midrash Halakha, c'est une étude des versets et sur la base desquels les sages vont définir quelle est la Halakha, quel est le droit. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, on se base sur ces Midrash Halakha. Il y en a deux qui s'appellent Mechilta de Rabbi Ishmael et Mechilta de Rabbi Akiva sur le livre de l'Exode. Il y en a un, le Sifra et un, le Sifri, un sur les nombres et un sur le Deutéronome. Alors je vais citer justement de la Mechilta de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, c'était un mitnachel, hein, il habitait au sud de Hebron et au deuxième siècle de notre ère. Hein. Alors on va lire la source 9. Rabbi Meir explique d'une manière. Hein, quand les tribus se sont trouvées face à la mer, qui est-ce qui est rentré le premier dans la mer quand on est arrivé devant la mer Rouge? Narchon ben Aminadab. Ça c'est une thèse. Et la deuxième thèse, c'est dans Maseret Sota. Il y a une deuxième thèse qui est beaucoup moins connue. Hein, la deuxième thèse, c'est que c'est la tribu de Binyamin qui est rentrée la première. Donc c'est à ça que fait référence maintenant Rabbi Ishmael. Quand les tribus se sont retrouvées face à la mer, l'une disait, c'est moi qui entrerai dans la mer en premier. L'autre disait, c'est moi qui entrerai dans la mer en premier. Pendant qu'ils discutaient vivement entre eux, la tribu de Benjamin a sauté en premier dans la mer. Ils discutaient, c'est moi le premier. Et Benjamin, il est rentré. Binyamin est rentré le premier. Ainsi qu'il est dit, là, c'est Benjamin le plus jeune qui les dirige. Binyamin, Tsaïr, Rodem. Hein, c'est dans le, ça figure dans le psaume qu'on lit à Shavuot, qu'on vient de lire maintenant, là. Les princes de Juda leur lancent des pierres. Sarai Yehuda, Rigmatam. Ne nie pas les dirige, Rodem, hein, Rodeotam, il les dirige, mais Red Yam. Hein, il est descendu dans la mer. Donc ça, c'est le midrash de Rabbi Ishmael. Parce que bien que ce soit un midrash halakha, il y a aussi beaucoup de Haggadah. Alors Juda a commencé à leur lancer des pierres. C'est pas nouveau, hein. Il y en a eu beaucoup cette semaine, la semaine dernière, pardon, mais c'est pas nouveau. Voilà, on a les sources dans le Midrash. Manitou disait, il suffit de regarder notre histoire pour comprendre l'histoire contemporaine. C'est toujours la même. Alors, le Midrash Mechilta, il rapporte aussi par le Tosfot dans Sota, explique. Exemple de ce à quoi cela ressemble. Un roi de chair et de sang qui avait deux enfants, un plus âgé et un plus jeune. Il est rentré la nuit dans sa chambre, le roi rentre dans sa chambre la nuit, et il dit au plus jeune, réveille-moi au lever du soleil. Réveille-moi dès que le soleil se lève, dès que le soleil pointe, tu me réveilles. Et au grand, il dit, réveille-moi à 3 heures de la journée, 3 heures plus tard, l'heure où les rois se réveillent, 3 heures après le lever du soleil. Alors arrive le lendemain matin, le soleil se lève, le plus jeune réveille son père. Et le plus grand ne le laisse pas faire. C'est logique, puisqu'ils ont reçu des ordres contradictoires. Et le jeune, et il dit au jeune, il m'a dit de ne me réveiller qu'après 3 heures. Et le jeune dit, il m'a dit de le réveiller au lever du soleil. Du fait qu'il se tenait en dispute, le père s'est réveillé. C'est souvent comme ça, hein, ça marche avec la dispute. Vous connaissez l'histoire de, est-ce qu'on se tient debout ou est-ce qu'on se tient assis quand on lit les 10 commandements? Alors il y avait une communauté où on a discuté très vivement pour savoir est-ce qu'on se tient debout ou assis pendant qu'on lit les 10 commandements. Alors ils se sont dit, écoutez, il y a un vieillard de notre communauté, maintenant il est à l'hôpital, on va aller le voir, on va aller lui demander. Alors ils vont voir le vieillard, ils lui disent, comment notre tradition, on se lève ou on est assis? Alors les premiers disent, on se lève, n'est-ce pas, hein, n'est-ce pas ce qu'on se levait? Alors le vieux il dit, non. Alors, les autres, ils disent, alors on était assis. Ils disent, non. Alors, du fait que le vieux, il disait non aux deux, alors ils ont commencé à se disputer. Alors, le vieux lève la tête, il dit, c'est comme ça qu'on faisait. Alors, du fait de la dispute, le père s'est réveillé. Et il leur a dit, mes fils, de toute façon, vous deux n'avez voulu que m'honorer. Moi, de même, je vous donnerai un salaire adéquat. Donc ça, c'est la fin du Midrash. Donc il y a toujours un Mashal et un Nimshal. Hein, il y a l'histoire qui est racontée, le sens de l'histoire, c'est clair. Le père, c'est Dieu, et les deux fils, c'est Yehuda et Binyamin. L'aîné, c'est Yehuda, le petit, c'est le Benjamin, hein, c'est Benjamin. Ainsi, le saint source de bénédiction a dit, « Quel salaire méritent mes enfants ?» La tribu de Benjamin a dit, qui est en train de la première dans la mer, « La présence divine résidera dans sa part. » Ainsi qu'il est dit, Binyamin Zev Itraf est un loup ravisseur. Pourquoi est-ce comparé à un loup? Parce que le loup, il mange les agneaux. Et il y a des sacrifices le matin et le soir, l'après-midi, hein, de Korban Ola, qui est une brebis. Donc le loup se nourrit de ces sacrifices d'Israël. Et il est dit sur Benjamin, Yedid Hashem, Shkon Lavetachala, Ben Ketefav Shachen, il réside entre ses épaules, donc le temple va résider dans le territoire qui appartient à la tribu de Benjamin. Et quel salaire a reçu la tribu de Juda qui lançait des pierres? Juda a reçu la royauté. Hein, pourquoi? Parce que marqué Sarai Yehuda Rigmatam, c'est comme s'il avait écrit Rigmatam, donc c'est un bel habit et qui est l'habit des rois. Hein, c'est comme ça figure dans le livre de Daniel. La question qui se pose, c'est quand on réfléchit à ce midrash, j'ai pas de source. Hein, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est pas comme Manitou, lui, il avait tout cherché. Quand il avait pas trouvé, c'est sûr que c'était de lui, mais moi non. J'imagine qu'il devait avoir des sources qui expliquent, comme je vais le dire maintenant. La grosse question, c'est pourquoi Dieu donne des ordres contradictoires à ses enfants. On va me réveiller au lever du soleil, on me réveille 3 heures après. Mais c'est parce qu'il y a deux réveils. Il y a deux réveils. Il y a le réveil national, qui appartient à Joseph et à ses enfants, et donc à la tribu des fils de Rachel, aux tribus des fils de Rachel, et il y a le réveil spirituel, qui est la particularité de Yehuda. Et ce n'est pas au même moment, parce qu'il y a une condition préalable. On ne peut pas parler d'une réussite spirituelle s'il n'y a pas un cadre matériel dans lequel cette réussite spirituelle va se faire. Imen keli en or, comme l'enseignent les maîtres de la Kabbalah. S'il n'y a pas de récipient, il n'y a pas de lumière. Donc il faut d'abord créer les structures dans lesquelles on va pouvoir inclure cette réussite spirituelle. Donc il y a deux ordres différents. Et si chacun n'en entend qu'un, eh ben c'est comme voilà ce qui s'est passé la semaine dernière, on lance des pierres. C'est quoi la solution ? C'est de comprendre que les deux ont raison. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réussite matérielle, il faut qu'il y ait une réussite spirituelle, mais il y a une condition sine qua non, c'est que la réussite matérielle, la réussite de la structure de l'État d'Israël, sur la terre d'Israël, ça aussi, ça a une dimension spirituelle, puisqu'elle va permettre ensuite l'épanouissement rêvé de la Kedusha en Israël. Il y a deux réveils. Et Manitou disait qu'on participe des deux à la fois, en fonction de ce qu'on fait. Hein. Quand je remue mon jardin, je participe à la première. Quand on étudie la Torah ensemble, alors on participe à la deuxième. À Paris, c'est anachronique. Hein. Donc voilà, pour les enfants d'Israël parmi vous, mon conseil, c'est décider d'aller dans le sens du projet. Venez nous rejoindre, participez aux deux résurrections. Hein. Il n'y a pas beaucoup de travail. Hein. Vous avez à peu près 1 sur 6 millions à faire. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et pour les autres, aidez-nous à le réaliser, ce projet. Voilà.
Merci beaucoup. J'avais peut-être, s'il y a des questions spécifiques sur ce qui va être dit avant d'entendre le Rav Shirky, mais moi j'en avais une, alors j'en profite d'avoir le micro. Parce que ce que vous avez dit, in fine, semble, non pas en contradiction, mais venir un peu en opposition à la tonalité de votre discours précédent, où vous laissiez entendre que des gens ne voient pas ce qui se passe, que des gens sont, bien que de tzadikim, absents du projet en train de se dérouler. Et alors qu'à la fin, vous nous disiez, non, bah c'est un peu normal, parce que finalement, il y a deux manières de voir, il y a deux réveils, et il y a des gens qui vont sans doute se mettre en mouvement au moment où le projet spirituel va apparaître, mais pour l'instant, ils préfèrent rester un petit peu en retrait. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le midrash de la fin par rapport à l'ensemble de votre discours et des deux messies ?
Vous prenez conscience de la problématique. Un sage d'Israël de nos jours qui n'aurait pas lu le Mechilta, comment on peut l'appeler un sage d'Israël ? Donc normalement, il devrait savoir qu'il y a cette résurrection nationale et la condition de la réussite. Donc normalement, il ne devrait pas jeter de pierre. Il ne devrait pas jeter de pierre. D'accord ? Il devrait être conscient. Ça, c'était à l'époque où on n'avait pas encore les clés, mais maintenant, on les a les clés. On a le Mechilta. On le sait comment ça doit se passer. On sait que la condition préalable à la réussite dans toutes ces dimensions d'Israël, ce n'est pas une clause, c'est un point fondamental. C'est comme si on disait, il y a une âme sans corps. C'est quoi ça, une âme sans corps ? C'est des esprits, on n'aura pas ça. Donc en fait, le fait que des sages d'Israël, surtout à l'étranger, et encore en Israël, s'opposent aux projectionnistes, ça montre une mécompréhension totale de ce que c'est que la Torah, une mécompréhension totale de ce que c'est que le projet divin, et donc ils sont à faux avec la Torah, et ils sont à faux, comme je l'ai expliqué au début, avec la massivité de l'événement, puisque donc, c'est un événement réussi.
Ils s'opposent aux projectionnistes, en quoi faisant ? Parce que ne pas y participer ou ne pas y adhérer, ce n'est pas forcément s'y opposer fondamentalement.
Ah mais si, ne pas faire, c'est déjà très très grave. Celui qui ne fait pas alors qu'il a le devoir de faire, eh ben celui-là disparaît. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ceux qui sont restés en Égypte ? Ce n'est pas le moment, on ne participe pas. Ils n'ont pas lancé des pierres à ceux qui partaient. Ils ont dit qu'ils ne partent pas. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils sont tous morts. Ça veut dire quoi, ils sont morts ? Ben, il n'y a plus, c'est une voie, c'est une impasse, comme disait Manitou.
Merci bien. On va prendre quelques questions, mais vraiment très spécifiques, hein, sur ce qui vient d'être dit, parce qu'après, il y aura un débat plus général, si vous le voulez. On est impatients d'entendre le Rav Shirky. Oui.
Être donné à l'homme, même s'il a des œillères et même s'il est dans le négationnisme.
Alors, combien de temps vous nous laissez?
Non. J'essaie d'expliquer comment je l'ai compris ce que disait Manitou sur ce sujet. Manitou disait qu'il y avait deux problèmes de fond qui ont perturbé et préoccupé les philosophes. C'est le problème des fondements de la morale et du sens du temps. On s'ennuie. Quand on est un philosophe de génie, on s'ennuie. Nietzsche, il citait Nietzsche. Le temps, c'est ce qui permet à l'homme de réaliser. C'est pas on lui laisse le temps de réfléchir. Il faut qu'il réfléchisse. Ik et nuk. Et puis ensuite, il faut qu'il travaille à faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Ça, c'est au niveau général, au niveau de l'équation personnelle de chacun et des problèmes qu'il peut avoir et qui le coincent en exil ou etc. Ça, on n'en parle pas et Manitou n'en parlait pas et ne le jugeait pas. Mais au niveau de l'ensemble, c'est certain que c'est de ça qu'il s'agit. Le temps qui est donné, c'est le temps pour faire le travail. C'est pas le temps pour réfléchir parce que une fois que le temps passe, eh ben après c'est trop tard, les portes se ferment. On l'a vu à toutes les générations, les portes se ferment. Et ce qui paraissait facile, ensuite, on aura beaucoup de Le Pen à s'en sortir.
Pardon ? La Shoah.
Non, la Shoah, c'est... Manitou a donné un cours complet. Je ne crois pas qu'on puisse en parler en une minute. J'ai eu le mérite de publier ce cours merveilleux en hébreu. Il a été traduit en français. Manitou était content de la traduction. Donc, je vous conseille de le lire.
C'est aussi dans la parole.
Mais c'est certain que c'était une... Le fait de rester en galoute avec ce qui risquait de s'y passer, ça procède de la même chose. Imaginez qu'au lieu de quelques dizaines de milliers de juifs à l'époque de la première et de la deuxième alia, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, au lieu que ce soit une infime minorité, il y ait une majorité qui soit venue, eh ben, l'histoire aurait été différente. Et s'il n'y avait pas eu des rabbins pour dire à leurs juifs « restez » et ensuite ont pris le dernier train et ont laissé leurs ouailles mourir dans les camps, on n'aurait pas eu ça non plus.
Mais...
Pardon ? Le texte en français...
Sur la Shoah, dans la parole et l'écrit, je crois qu'il y a quand même...
Oui, il a été publié dans la parole et l'écrit.
Je ne sais pas à quel tome, je crois que tome 2, je crois. Voilà. Dans Pardès aussi. OK. Bon, je vous propose qu'on poursuive la même réflexion, j'imagine. En tout cas, on va partir de cette double messianité, double messianisme. C'est le thème de la conférence du Rav Cherki, à qui je donne tout de suite la parole et un micro pour...
On y va maintenant ?
Oui. Oui, je vous en prie.
Bon, bonsoir à tout le monde. Je vais essayer d'être long. En tout cas, bon, le thème que nous allons développer, le double messianisme, ce qu'on appelle Machiach ben Yosef, Messer ben David, le messianisme joséphique et davidique, c'est un sujet assez ardu, pour tout vous dire, qui a des sources dans la littérature de nos maîtres pendant, on va dire, des milliers d'années. Et nous allons essayer de relever des points essentiels, tels qu'ils ont d'ailleurs été transmis dans l'enseignement de Manitou. Et je voudrais d'abord, quand on parle de messianisme, éviter certaines erreurs. D'accord ? C'est-à-dire, le terme de messianisme n'a pas la vie facile. C'est-à-dire, quand on parle de messianisme, en général, c'est les fous. Et donc, ou bien, quand dans la classe politique israélienne, quand on veut insulter quelqu'un, on dit il est messianique. Et donc, il faut savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on entend dans la tradition d'Israël par le messianisme. Il faut donc d'abord donner une définition et à partir de ces définitions, ne pas s'en écarter pour savoir de quoi on parle. Ce qu'on appelle le messianisme, c'est tout messianisme a pour présupposé qu'il y a assez de données dans le monde pour transformer le monde et le rendre meilleur. C'est-à-dire, c'est la définition la plus générale possible du messianisme. Je reprends, nous avons assez de données dans le monde pour transformer le monde et le rendre meilleur. De ce point de vue-là, on peut dire que le marxisme est une forme de messianisme. Le marxisme a une foi très profonde dans cette idée que les mécanismes de l'histoire permettent de transformer le monde et de le rendre meilleur. Du point de vue de cette définition-là, le christianisme, par contre, n'est pas un messianisme. Le christianisme suppose, pour point de départ, que l'histoire est incapable de réussir sans intervention de l'extérieur. Dans le sens le plus absolu du Deus ex machina, il y a un Dieu qui doit venir de l'extérieur parce que sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire c'est pessimiste. On pourrait donc traduire, si vous voulez, le messianisme par l'optimisme. Et cet optimisme prend différentes formes. Essentiellement, dans la tradition d'Israël, l'optimisme d'un optimisme politique. C'est-à-dire nous supposons que le politique peut réussir. De ce point de vue-là, à nouveau, il y a divorce avec la pensée chrétienne qui a affirmé que le politique ne peut pas réussir, que le monde est pourri et que ce qu'il faut sauver, c'est l'âme. D'accord ? C'est le principe de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à César, c'est l'État. Ce qui est à Dieu, c'est l'âme. J'aime amener comme exemple pour illustrer cette idée-là, je pense en avoir parlé d'ailleurs dans le dernier séminaire, c'est un roman écrit par un Français dont vous avez probablement entendu parler, un certain Victor Hugo, c'est ça. Hugo, dans Les Misérables. C'est un très beau livre, n'est-ce pas ? Je pense que tout le monde aime bien ce livre, il est émouvant. Mais quelle est la thèse fondamentale du livre ? La thèse est une thèse chrétienne, c'est-à-dire que le système dans lequel vit la société humaine est un système infernal, impersonnel, parce que c'est de la politique. Et le politique est aux mains des méchants par définition. Et le seul moyen de s'en sortir, de rendre la vie pas trop amère, de l'adoucir un peu, c'est avec un peu de charité chrétienne. Et cette charité va permettre de traverser la vie cruelle de manière un peu plus douce. Mais il n'y a pas d'espoir de transformer la société. En tout cas, pas à partir du christianisme. Et c'est exactement le contraire du messianisme d'Israël. Le messianisme d'Israël a pris comme projet, et ça on le voit très bien dans le verset qui a été cité par Frédéric Rard auparavant, quand Dieu élit Abraham, il lui dit « Je vais faire de toi une grande nation, c'est-à-dire un État. Tu vas devenir une entité étatique, et c'est à travers cette entité étatique que le monde va être transformé, et nous allons créer donc une société modèle qui va servir, qui sera exportée chez les nations, qui va leur servir de modèle. » Mais il y a plusieurs dimensions au messianisme. C'est vrai qu'il y a une concentration très forte dans la tradition d'Israël autour de la dimension politique, mais il y a également un messianisme au niveau de la réparation en général. Alors la réparation, ça peut effectivement être la réparation individuelle. De ce point de vue-là, chacun peut être son propre messie. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les fous se prennent pour le messie, parce que ils sont conscients de la dimension messianique qu'il y a en chacun d'eux-mêmes. Il y a même, d'ailleurs, à ce propos, une gématria très belle. La valeur numérique du mot « meshuga », le fou, c'est « ani mashiach », je suis le messie. Oui, c'est vrai, absolument. Enseignement du Rav Ginsburg. Mais il y a évidemment... un messianisme au niveau cosmique, si vous voulez, au niveau de l'humanité tout entière, au niveau du cosmos, et même, on pourrait dire, une sorte de messianisme mystique, la réparation des mondes et tout cela. Donc, en fait, il y a une série de cercles concentriques de messianisme, et il y a différentes formes de cela. Et si on se réfère à l'histoire humaine, on voit qu'il y a eu plusieurs tentatives messianiques. On peut dire que tous les grands systèmes de pensée, les grands systèmes de religion, de philosophie, économique, tous ont été des tentatives messianiques. Et il y a un élément permanent, c'est qu'à chaque fois, ça a échoué. Et c'est extrêmement navrant de voir que l'histoire est une accumulation d'échecs messianiques. C'est ce qu'on appelle des avortements messianiques. Or, il y a un texte du Talmud dans le traité de Sanhédrin, dans lequel il y a un dialogue entre deux sages du Talmud, un qui demande à l'autre « Est-ce que tu as entendu dire quand est-ce que viendra le fils des avortons ?» Bar Naflé, le fils des avortons. Alors il dit « Mais de qui tu parles ?» Ben, il dit « Je parle du Mashiach, évidemment. » Il dit « Mais comment ? Tu appelles le Mashiach un fils d'avorton ?» Il dit « Mais que faire ? C'est le verset qui le dit. « Bayom ahu akim et tsukat David anofelet, en ce jour, je relèverai la cabane de David qui est avortée. » Nofelet, qui est tombée. Et donc, et alors ? Alors Manitou expliquait que Barnaflé, c'est-à-dire le fils des avortons, c'est-à-dire que le Mashiach reprend tous les avortements messianiques de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu un avortement messianique, il en est resté quand même quelque chose. Par exemple, on a un exemple tout simple, le marxisme. Le marxisme a échoué en tant que système qui sauverait l'humanité. Mais il en est resté quand même quelque chose. La sensibilité à la justice sociale, le syndicalisme, ça existe. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement perdu. En fait, on pourrait reprendre toutes les formes de socialisme, toutes les formes de messianisme et voir que toutes ces formes de messianisme, bien qu'ayant échoué, ont quand même quelque chose à apporter. Et le rôle du Messie serait justement de faire la synthèse, d'être le réceptacle de tout cela. Donc, en fait, chaque sensibilité messianique se retrouverait à travers le Mashiach. Même d'ailleurs, la dernière religion en date, la religion du processus de paix, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est une religion très importante qui justement dit qu'il est important qu'il n'y ait pas la paix, parce que s'il y a la paix, ça arrêtera le processus. Or, le processus, c'est la divinité actuelle, et donc il faut maintenir le processus de paix. Ça fait partie donc des religions et des messianismes en cours dans l'humanité. D'ailleurs, dans le cadre de ce processus, il y a eu un acte de violence récemment à Londres. La police a abattu 3 combattants pour la paix, sauvagement, alors qu'ils ne faisaient que se défendre. Et bah, je reprends tout simplement les présupposés de toute la presse européenne. Donc il y a... Si on reprend cela, je veux revenir donc au thème de notre étude. Quand on parle de messianisme dans le peuple d'Israël, ça ne peut être qu'au pluriel. Il y a des messianismes. Et on voit par exemple dans le livre de Shoftim, le livre des juges, nous dit le Talmud, il y a eu un juge pour chaque tribu d'Israël. On peut dire que chaque tribu d'Israël avait son messie, son sauveur. Et finalement, les différentes formes de messianisme se concentrent dans 2 directions fondamentales, celle de la tribu de Yosef, celle de la tribu de Yehuda, et ça va nous donner 2 formes de messianisme. Alors évidemment, dans les textes traditionnels, il n'y a pas de contradiction apparente entre ces 2 messianismes, mais historiquement parlant, c'était une controverse. Cette controverse a commencé déjà avec les mères de ces tribus-là, entre Rachel et Léa, et après c'est devenu la controverse entre Yosef et ses frères, et après c'est devenu la controverse politique entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, et ce n'est que beaucoup plus tard que l'histoire nous a convaincus qu'il fallait qu'il y ait une collaboration entre ces 2 messianismes et qu'ils ne s'opposent pas l'un à l'autre. Mais pendant un très long temps de l'histoire, il y a ces 2 formes de messianisme qui se confrontent l'un à l'autre. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, il est important de revenir à des définitions. À nouveau, nous allons revenir aux définitions. Il y a dans la Torah un conflit ouvert, raconté dans le livre de Bereshit, entre Yosef, le fils de Yaakov, et Yehuda et ses frères. Et ce conflit est un conflit qui porte sur la première forme de messianisme sur laquelle il s'oppose. Et après, il y a une transformation de ce conflit en une deuxième forme de conflit. C'est une chose qu'on n'a pas toujours mis en évidence, et c'est pour ça que je veux insister là-dessus. Quel est le projet de Yosef et le projet de Yehuda? Alors Manitou avait une expression très simple, géométrique. Chez Yosef, on va du centre à la périphérie. Chez Yehuda, on va de la périphérie vers le centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réparation du monde, la tikkun haolam, se fera, selon Yosef, en remplissant une mission chez les nations. Un peu comme le pensait, par exemple, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch en Allemagne, qui pensait que l'idéal... Ah, il fallait pas le dire. Que l'idéal des Juifs était de vivre parmi les nations pour leur amener la lumière, de la sainteté, de la morale. Et donc, Yosef se voyait un peu comme le délégué de la famille d'Abraham pour sanctifier l'Égypte. De ce point de vue-là, le public auquel s'adresse l'enseignement d'Abraham, c'est justement la plus grande civilisation de l'époque, la grande puissance, la grande puissance politique, la grande puissance de civilisation, c'est à elle qu'il faut s'adresser. C'est ça le projet de Yosef. Et donc Yosef se sent tout à fait à l'aise en tant que vice-roi d'Égypte. Il se sent beaucoup mieux qu'à la maison. La maison n'est qu'un laboratoire. Ce laboratoire doit servir finalement à transformer le monde. Et le monde, ben, c'est l'Égypte. Donc vous voyez que la vente de Yosef, qui finalement est vendu en Égypte et qui devient vice-roi d'Égypte, ce n'est pas du tout une vicissitude de son point de vue, c'est exactement ce qu'il voulait faire, c'est de cela qu'il rêvait. En effet, Manitou interprétait les rêves de Yosef comme étant des rêves de cosmopolitisme. Il se voulait comme étant le représentant de la famille d'Abraham chez les nations. Le problème est de savoir, est-ce que Yosef n'avait pas peur ? Ça, c'est très difficile d'être vice-roi chez les nations. On s'assimile. Mais Yosef, en fait, n'avait pas peur. Pourquoi il n'avait pas peur ? Parce qu'il était tout à fait conscient de ce qu'on appelle, en hébreu, la segula, c'est-à-dire la vertu intrinsèque de l'être d'Israël. Il sait que, quelle que soit la situation, partout où il est, eh bien, son être ne disparaîtra jamais. Et donc, il se base sur cette sainteté intrinsèque qu'il y a en lui. Il dit, voilà, j'ai pas peur, je me trempe à la civilisation des nations, je reste moi-même. Je suis toujours à Ivri, l'hébreu. Et à ce propos, il y a une interprétation de Manitou sur une paraphrase du texte de Rashi sur le livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, nous avons la descente des enfants d'Israël en Égypte. Ve'ele Shemot bene Israël abaï Mitzrayim. Voici les noms des enfants d'Israël qui descendent vers l'Égypte. Pourquoi ils descendent vers l'Égypte et pas en Égypte ? Parce qu'ils avaient peur de rentrer trop profondément dans l'Égypte. Mais après, dans la liste des tribus, il écrit « Ve'yosef haya be'mitzrayim » mais tandis que Yosef lui-même était dans l'Égypte. Et Rashi nous dit « Hu betzidko » lui était resté juste. Et Manitou disait « Il n'y a que Yosef qui peut être dans l'Égypte et rester juste. » Au niveau de la collectivité, ça ne marche pas. Au niveau d'un individu exceptionnel, ça peut marcher. Et donc ça, c'est le projet initial de Yosef. Le projet de Yehuda est exactement le contraire. Donc c'est la raison pour laquelle il a condamné Yosef à la mort. Yehuda disait, il faut au contraire aller de la périphérie vers le centre, donc rester dans la terre d'Israël. Nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont beaucoup pérégriné. C'est fini, maintenant il faut se fixer sur le sol, se marier avec les Cananéennes, c'est-à-dire les filles du terroir, et c'est là que ceux qui veulent venir, ben, ils n'ont qu'à venir. Mais nous, on s'occupe de nous-mêmes. Ça, c'est le particularisme absolu de Yehuda. Si vous voulez, Yehuda, à ce moment de sa réflexion, c'est un religieux d'Eretz Israël, mais un religieux seulement. C'est-à-dire, il n'y a pas de dimension étatique, il n'y a pas de dimension politique, mais il y a une dimension de centralisation, de centralisme autour de la terre d'Israël. C'est ça le projet de Yehuda. Ce sont donc deux formes de messianisme opposées qui ne sont pas encore ce qu'on appelle le messianisme Ben Yosef et Ben David. Et puis, bon, vous connaissez les vicissitudes. Et en fait, Yehuda, lui, a peur. Il a peur de l'exil. Et il a peur de l'exil parce que Yehuda connaît la sainteté d'Israël, non pas comme étant la sainteté intrinsèque, la Ségoula, il connaît ce qu'on appelle la Bechira, c'est-à-dire la sainteté élaborée par l'homme. Cette sainteté élaborée par l'homme est en danger. Et elle est en danger de disparition. Et donc, il faut surtout la préserver dans un cocon, dans sa yeshiva, en Eretz Israël. Et disons que quand Yehuda entendait les projets de Yosef, il dit « Moi, je ne suis pas de ce goût-là. » Et c'est très bien, vous avez compris. Et maintenant, vous connaissez donc les vicissitudes du récit de la famille de Yosef et de Yehuda, comment ça finit avec l'histoire de Binyamin, la révélation de Yosef à ses frères. En fait, cette histoire de réconciliation entre les tribus, entre Yosef et Yehuda autour du personnage de Binyamin, est en fait une catastrophe pour les deux. Parce que aussi bien Yosef que Yehuda découvrent qu'ils ne peuvent pas agir l'un sans l'autre. Alors que Yosef pensait qu'il pourrait se débrouiller seul en Égypte avec associé Binyamin, son frère par sa mère, et qu'il renverrait ses frères en Eretz Israël, il découvre brusquement que Yehuda ne renoncera pas à Binyamin, et donc il est obligé de réintégrer la famille. Et Yehuda découvre que c'est le moment de descendre en Égypte, ça l'embête beaucoup, mais il y a la famine, alors il est bien obligé d'aller chez Yosef. En fait, cette rencontre, c'est l'échec absolu du système extrémiste de Yosef ou du système extrémiste de Yehuda. Et là, c'est là qu'ils commencent à comprendre qu'ils vont devoir agir ensemble, faire une sorte de messianisme synthétique. Et là, nous avons à nouveau deux manières d'agir. Yosef a appris en Égypte la science politique. C'est ça qu'il a appris finalement, c'est ça son expérience, la science politique et économique. Yosef a pensé transformer l'Égypte à travers l'économie. Et il avait pensé également transformer l'Égypte par le politique. Donc, si vous voulez, Yosef est quelqu'un qui est à même de bien comprendre les rouages intérieurs de la civilisation de son temps. Et puis, il découvre que ça ne marchera pas. Les Midrashim nous disent qu'il a commencé à voir les débuts de l'asservissement des Hébreux. Il a compris que la présence en Égypte ne marcherait pas jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il y a un texte assez surprenant dans la Torah, et on ne fait pas toujours attention à ça. C'est que quand Yosef transforme l'Égypte sur le plan économique, il découvre qu'il peut nationaliser les terres. Il nationalise les terres de toute l'Égypte. Et d'ailleurs, il abolit la monnaie, puisque tout l'argent est amené dans la maison du Pharaon, dans le palais du Pharaon. Il nationalise les biens mobiliers, les animaux, après les biens immobiliers, les terres, et la liberté individuelle, sans parler du fait qu'il fait des transferts de population au sein de l'Égypte. C'est une planification économique totale avec l'espoir de transformer l'Égypte. Il va faire le bonheur des gens, malgré eux. Mais la Torah rajoute un point très important. Il ne nationalise pas les terres des prêtres. Les prêtres d'Égypte sont alimentés directement par le pharaon, qui est hiérarchiquement au-dessus de Joseph. Et là, ça veut dire quelque chose de très grave. Ça veut dire que le noyau dur de la civilisation de l'Égypte restera en dehors de l'emprise de Joseph. Et donc, l'Égypte, un jour, va se venger du bien que Joseph lui a fait. Et donc, ça ne peut pas réussir. Quand on n'est pas chez soi, on n'a pas le droit moral, ni même technique, de s'emparer des autres. Et donc Yosef commence à comprendre que ça va aller mal. Et comme ça va aller mal, il dit à ses frères au moment de mourir, vous savez, le bon Dieu, il va vous ramener en Eretz Israël, amenez mes ossements avec vous et enterrez-les au mont Herzl. C'est-à-dire que il a compris à un moment que la science politique qu'il avait acquise en Égypte allait servir à établir l'État d'Israël sur sa terre. Qu'est-ce que Yehuda a compris? Yehuda a compris également que c'était le moment, il y avait un moment de l'histoire qui devait passer par l'exil, et qu'il fallait apprendre là-bas quelque chose. Et il y a un verset crucial pour comprendre tout ça, dans la paracha de Vayigash, quand Yaakov prépare sa descente en Égypte. Avant de descendre en Égypte, il envoie Yehuda. Et pourquoi est-ce qu'il envoie Yehuda? Ben pour préparer le terrain. Et le texte nous dit, « Ve'et Yehuda shalach el Yosef ». Il envoie Yehuda chez Yosef, « Le'orot lefanav goshna » pour enseigner devant lui à Goshen. Goshen, le lieu où résideront les Hébreux. Ça veut dire que il n'a pas simplement envoyé Yehuda en Égypte, il l'a envoyé chez Yosef. Parce que chacun doit apprendre quelque chose de l'autre. C'est Yehuda qui va fonder la yeshiva, nous dit Rashi. Yehuda va être celui qui va déterminer l'idéologie, pourrait-on dire, l'idéologie dominante du peuple hébraïque. C'est-à-dire que c'est Yehuda qui a raison, en conclusion, que c'est en Eretz Israël que tout se passe. Mais il va devoir apprendre chez Yosef la science politique. Et donc il va devenir religieux, mais universel. Et là, on peut dire qu'il y a ici deux moments très importants. Yosef va cesser d'être un juif cosmopolite pour devenir le Mashiach ben Yosef. Il va fonder à Goshen l'État juif. Et donc il le prévoit, il dit « c'est pas tout de suite, ça prendra 210 ans. Si j'en parle aujourd'hui, on en rigolera beaucoup. Mais dans 210 ans, tout le monde saura que j'avais raison. » Et donc, il va devenir le Mashiach ben Yosef, et ce qui explique pourquoi est-ce que, par exemple, le Rav Kook identifiait Herzl comme participant de l'identité Mashiach ben Yosef. Attention, ça ne veut pas dire « celui-là, c'est le Messie ». Ça, c'est du paganisme. Le paganisme consiste à dire « le Messie est un personnage miraculeux, et le fait de le reconnaître comme Messie, c'est ça qui sauve ». Il y a des relents extrêmement païens dans cette approche. Tandis que quand on parle de messianisme, on dit « celui qui est capable de réaliser le projet. Et réaliser le projet, il faut passer donc par la culture des nations. En fait, on peut dire que Yosef, mort en Égypte, prépare Moïse qui va achever son travail. C'est-à-dire, Vaïkar Moshe et Atzmot Yosef Imo, Moïse prend avec lui les ossements de Yosef. C'est-à-dire que Yosef avait commencé et Moshe finit. Il achève ce que faisait Yosef et il va ramener les ossements de Yosef en Eretz Israël. Ça, c'est le travail du messianisme joséphique. Le messianisme joséphique n'est pas donc un messianisme religieux, c'est un messianisme politique et économique, ce qui, effectivement, peut tout à fait correspondre au sionisme politique que nous connaissons de nos jours. C'est la, si vous voulez, la tranche qu'on appelle Machiav ben Yosef. Rien de mystique à ça, en fait, si vous voulez. Il y a, par contre, la deuxième dimension, celle de Machiav ben David, qui est le travail que doit faire Yehuda beaucoup plus tard. C'est quoi le Machiav ben David? C'est un messie qui s'occupe d'Eretz Israël, de la concentration du peuple juif dans son lieu de sainteté, autour du Beth Amikdash, autour du retour de la prophétie, autour d'une dimension spirituelle et mystique, si vous voulez, mais qui comprend que ça passe par un État à vocation universelle. Et là, je voudrais rentrer dans un enseignement du Natsif de Vologine à propos de du commandement que nous avons dans le livre de Devarim, qui est la nomination d'un roi. La Torah nous parle, parmi les 613 commandements, des règles de la nomination d'un roi. Et bon, il y a tout un problème de savoir, est-ce qu'un roi, c'est forcément une monarchie? C'est-à-dire, on peut se tromper là-dessus. Vous avez, par exemple, dans un pays qui n'est pas loin d'ici, il y a une reine, et c'est pourtant un État démocratique et parlementaire. Et en tout cas, le problème de savoir, quand est-ce qu'il est désirable d'avoir un roi, et quand est-ce qu'il est désirable de ne pas en avoir? Et la Torah nous dit, viendra un jour, quand tu seras rentré en Eretz Israël, quand tu viendras dans le pays que Dieu te donne, eh bien, le jour où tu te diras, je veux mettre à ma tête un roi, comme les nations qui sont alentour, alors tu mettras à ta tête un roi. Et là, il y a des règles, comment on le fait? Et là, la question se pose, mais pourquoi est-ce qu'une mitzvah dépendrait du bon vouloir du peuple? Si c'est une mitzvah, il faut l'accomplir, point à la ligne. Pourquoi attendre que tu le dises? Et le natif de Vologine, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Vologine, où le Rav Kook avait fait ses études, explique dans son commentaire sur la Torah, parce que avoir un roi n'est pas toujours une bonne chose. Et donc il faut attendre que les conditions soient requises. Mais quelles sont les conditions? Les conditions, nous dit le texte, comme les nations qui sont alentour. C'est alors que d'habitude on se dit avoir un roi comme les nations, c'est quelque chose de condamnable. Pas du tout, nous dit le natif. C'est lorsque tu regarderas les nations qui sont alentour et que tu verras que ceux qui ont un roi sont mieux gouvernés que celles qui n'en ont pas, c'est alors qu'il faudra que toi aussi tu en aies un. Ça veut dire que l'accomplissement d'une mitzvah assez importante, le régime politique, dépend de l'état de la culture politique des nations. C'est absolument incroyable. Depuis quand est-ce qu'on a besoin des goyim pour savoir quand est-ce qu'on va accomplir une mitzvah? C'est absolument incroyable. Et en fait, c'est tout à fait logique. Parce que pourquoi est-ce que le bon Dieu il nous demande de faire un État, après tout? Pourquoi justement ne pas se contenter, comme l'avait proposé une certaine lecture, de faire une religion, hein, après tout? Une religion sur une terre, la Terre Sainte. Vous savez, la Terre Sainte, c'est très bien. Il y a là-bas des tombes, qui sont des tombes de saints. Il y a des lieux saints. Il y a des commandements liés à la terre. Pourquoi ne pas se contenter de ça et laisser le gouvernement aux mains des Turcs? Après tout, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin d'avoir une armée, on n'a pas besoin d'avoir une économie, des universités, des yeshivot, etc. On fait la Torah entre nous, c'est très bien. Pourquoi avoir besoin d'un État? Pourquoi est-ce que le bon Dieu nous a demandé qu'il y ait une entité politique? Eh bien, la raison est très simple. Si la finalité de la Torah ne concernait que le peuple d'Israël, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir un État, pourquoi se fatiguer? Mais si la finalité du peuple d'Israël, ça concerne l'humanité tout entière, alors il faut avoir un État. C'est la manière de dialoguer avec les nations. Or, on ne peut dialoguer avec quelqu'un que lorsqu'on a un dénominateur commun avec son comportement. C'est pour ça que la Torah fait dépendre la nature du régime politique de l'état de la culture politique chez les nations. Et donc, c'est ça que Yehuda apprend chez Yosef. Il va apprendre l'importance de l'accord entre la culture politique d'Israël et celle des nations afin de devenir véritablement universel. Et là, bon, on connaissait cette différence importante que faisait Manitou entre l'universalisme et le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme abolit la notion de nation, et donc il n'y a plus de cœur à l'organisme de l'humanité, tandis que l'universalisme suppose qu'il y a, comme disait Rabbi Yehuda Lévi, un cœur et des organes. Et c'est ça, disons, le messianisme du Mashiach ben David, le messie davidique, qui prend sa base dans le messianisme joséphique. Si vous voulez, de ce point de vue-là, on peut dire que le Mashiach ben David, c'est la deuxième phase du sionisme. Or, là, on peut se tromper. Et là, je voudrais mettre en garde d'une certaine mauvaise lecture qu'on pourrait faire de ce double messianisme. Et ça, on peut l'entendre en filigrane, dans certains discours rabbiniques, bien intentionnés d'ailleurs, qui est que, bon, jusqu'à présent, il y avait le sionisme. Le sionisme, ça appartient au chilonim, au laïc. Bon, comme c'est écrit dans la Guémara que ça va se passer, alors on attend patiemment que ça passe. Et puis, quand c'est enfin passé, quand il y a enfin une crise du sionisme, eh bien c'est là qu'on va devenir enfin religieux. D'accord ? C'est une mauvaise lecture, donc ça s'appelle la résurrection du Kodesh par rapport à la résurrection du Chol. Ce sont des termes dans la pensée du Rav Kook. C'est une très grave erreur. Ça voudrait donc dire qu'en fait, toute l'histoire du sionisme n'était qu'une mauvaise épreuve à passer, un mauvais moment à passer, un rêve, un cauchemar. Et puis enfin, on va enfin revenir à la yeshiva et se contenter donc de la sainteté individuelle. Or, c'est exactement le contraire de ce que signifie cette dualité du messianisme. Ça veut dire que la sainteté n'a pas d'assise si elle n'est pas ancrée dans le profane, dans le rôle. Et là, je voudrais vous amener ici une image botanique qu'on retrouve dans le livre des psaumes qui explique de quoi il s'agit. Il y a un psaume, le psaume 80, qui est entièrement consacré à l'image du messianisme de Joseph. L'Anamser Halshoshani Mizmor le David, c'est un psaume dans lequel il est question des combats des descendants de Rachel, Ephraim, Binyamin et Ménaché. Et là-bas, selon les commentateurs, tout ce texte parle du Mashiach ben Yosef. Dans ce texte, le psalmiste se plaint du sort d'Israël. Il dit Gefen mi Mitzrayim tasiya tegaresh goyim vatitareha. Tu as déplacé une vigne de l'Égypte. Donc la vigne, c'est Israël. Lorsque tu as renvoyé les nations, c'est-à-dire les Cananéens, vatitareha, tu l'as planté. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël, c'est représenté comme le déplacement d'une vigne d'un terroir à un autre terroir. Et puis après, le psalmiste nous décrit l'étendue de ce vignoble qui devient de plus en plus grand, qui remplit le territoire qui va du Nil à l'Euphrate, tout va très bien. Et puis après, il y a des infiltrations de terroristes. D'accord ? Lama paratsta gederea va arua kol ovredarer. Pourquoi est-ce que tu as éventré ces barrières ? Pourquoi est-ce que les passants cueillent ces grappes ? Et le psalmiste lance une prière dans laquelle il demande au bon Dieu de bien vouloir s'occuper de sa vigne. Et Shuvna, reviens donc, Ufkod Gefenzot, occupe-toi de ta vigne. Vechanna Asher Natea Yeminecha, et la souche que tu as plantée par ta droite. Vealben Imatstalar, le fils que tu as adopté, le fils en question étant le Mashiach ben Yosef. Et donc, de quoi s'agit-il ? Pour ceux qui connaissent la viticulture, la culture de la vigne, vous savez que la vigne est un arbre assez difficile à faire pousser. Une vigne, le cep de la vigne, est extrêmement tendre. Il ne peut pas tenir quand on le plante dans la terre. Mais il y a des sortes de vignes qui ont des racines très fortes, mais qui ne donnent pas de fruits. C'est ce qu'on appelle la souche. En hébreu, kana, le terme employé par le psalmiste. Et ceux qui font donc de la viticulture savent très bien que pour que ça marche, on plante donc une première vigne de la première espèce, celle qui a des racines très fortes mais qui ne donne pas de fruits. une fois que les racines sont bien plantées, alors on fait une entaille dans les racines. Et alors on introduit dans l'entaille qui a été faite un sarment de vigne qui donne des fruits, et la vigueur donnée par la racine va donner la force de faire des bons fruits. Et c'est comme ça qu'on a un vignoble qui mérite ce nom. Pour les Chachamim, je reprends ici des imageries qu'on trouve chez les kabbalistes, la souche, c'est le Mashiach ben Yosef, le sarment qui est introduit dans l'entaille, c'est le Mashiach ben David. Et ça veut dire que s'il n'y a pas la puissance étatique et économique du Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David ne peut pas tenir. Donc, mais si vous avez un observateur de l'extérieur qui ne connaît rien à la viticulture, alors il voit le vignoble, mais il dit, mais il n'y a pas de fruits. Il regarde de près, il n'y a que des racines fortes, mais qui ne donnent rien. Ben, il dit, ça ne se donnera jamais rien. Après, il voit qu'arrive le paysan et qu'avec un couteau, il fait une entaille dans les racines. Il dit, mais il est fou, il est en train de tuer au moins ce qu'il y avait. Donc ça ne va certainement pas marcher, parce qu'il n'a pas la patience. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des moments dans l'histoire qui correspondent justement à cette entaille. C'est-à-dire les passages intermédiaires, ce que les kabbalistes appellent le moment du sommeil, dormita, dit le Zohar. Il y a des moments où quelque chose s'achève et quelque chose doit naître. Et il y a l'intervalle. Et l'intervalle est difficile à vivre. C'est là les moments de crise. Effectivement, les crises de foi dont on a parlé tout à l'heure. Et il faut donc être capable de comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a aujourd'hui une crise du sionisme. Et bien, cette crise du sionisme, elle vient justement pour faire l'entaille. Et là, on peut se tromper. Là, c'est lié à tout un thème qu'on retrouve dans les textes. C'est la mort du Mashiach ben Yosef. Vous savez que selon les Midrashim, le Messie fils de David entreprend la guerre contre Rome, contre les nations, et qu'il est tué au combat. Alors c'est la grande débandade, on se demande mais alors qu'est-ce qui va se passer? Et puis finalement, happy end, arrive le Mashiach ben David. Bon, vous savez que le Midrash a toujours sa manière d'expliquer les choses de manière télescopique. Mais ce sont des processus. Ça veut dire que on peut s'imaginer que le Mashiach ben Yosef a disparu. Mais finalement, il ressuscite. Et il y a à ce propos des textes contradictoires. Le texte du Talmud, dans le traité de Souka, nous dit que le Mashiach ben Yosef sera tué et qu'il y aura une oraison funèbre superbe lors de son enterrement. Et puis qu'après viendra le Mashiach ben David. Les kabbalistes... entre autres, le Gaon de Vilna nous dit « Non, c'est une erreur, le Mashiach ben Yosef ne mourra pas. » Alors pourquoi est-ce que le Talmud dit qu'il mourra? C'est parce qu'il se passera avec le Mashiach ben Yosef la même chose qui s'est passée avec Yosef lui-même. On croira qu'il est mort. Mais en fait, il n'est pas mort. Et il y a une approche intermédiaire entre les deux opinions, celle du Hari, qu'on retrouve également chez le Rav Kook, mais essentiellement chez le Hari, que le Mashiach ben Yosef sera en danger, mais si on fait la prière pour qu'il vive, il vivra. Ça demande un certain effort. Alors bon, il y a différentes manières d'interpréter ça. Il y avait une très belle explication historique que Manitou amenait à propos de la tentative de Rommel, qui est le représentant, si vous voulez, des forces italo-germaniques pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui portait d'ailleurs le nom du certain Rommelus qui doit tuer le Mashiach ben Yosef, qui a essayé de faire la conquête d'Eretz Israël à l'époque et qui n'a pas réussi. Mais il y a en fait plusieurs dimensions de cette tentative de tuer le Mashiach ben Yosef, et finalement, il se révèle que, comme dit la Torah, « Od Yosef Chai », Yosef est encore vivant. Il y a d'ailleurs une chanson israélienne très belle. Je voudrais citer deux chansons israéliennes. Les chansons israéliennes sont très belles en général, sauf celles qui ne le sont pas, mais en général, elles sont très belles. Il y a une chanson israélienne qui dit « Ani ot chai »,« Je suis encore vivant ». Ze ashir she saba shar etmol le'aba, c'est le chant que grand-père chantait hier à mon père. Ve ayom ani, et aujourd'hui c'est moi qui le chante, ani ot chai, chai cha, je suis encore vivant. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que je ne suis pas vivant, mais je le suis encore. une autre chanson israélienne un peu humoristique qui parle d'un certain de quelqu'un que on attend dans un salon, on attend qu'arrive un membre de la famille qui s'appelle Mashiach. Vous savez que Mashiach est parfois un nom propre en hébreu. Alors on attend que Mashiach arrive et finalement il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il a eu un accident de voiture, ça a été très grave. D'ailleurs, certains disent que le Mashiach est depuis très longtemps à Tel Aviv, mais qu'il cherche où se garer. Et donc, le Mashiach, on dit Teuna la Medina. Il y a un accident à l'État. Anashim Koftim et Agag. Les hommes sautent des toits. C'est-à-dire, ils perdent leurs idéaux. Vega Mashiach Kafatz. Et Mashiach aussi a sauté. Et on a dit qu'il était mort. Et ça veut dire quoi, Odiou? Ben, c'est exactement ce qu'on a raconté à Yosef, ce qu'on a raconté à Yaakov à propos de Yosef. On dit, tu sais, il est mort. Mais non, en fait, il n'est pas mort. Et donc, il faut surtout ne pas se tromper. Cette idée, justement, qu'une crise du sionisme serait la mort du sionisme et que ça serait remplacé par une sorte d'idéal religieux, c'est une très, très grave erreur. C'est ne pas comprendre la manière dont l'histoire s'accomplit. Elle s'accomplit un peu à la manière d'une dialectique hegelienne. Il y a un mouvement qui doit se faire, qu'on appelle le Mashiach ben Yosef, il doit laisser la place, il doit se rétracter pour permettre l'apparition de nouveaux éléments dans la vie d'Israël, aussi bien dans l'État d'Israël que dans l'humanité. Et c'est ça qui permet justement le Mashiach ben David. Si vous voulez, comme on en a parlé tout à l'heure, la dimension universelle de l'État d'Israël commence à devenir une exigence de l'humanité. C'est-à-dire que, alors que jusqu'à présent, l'État d'Israël était une interrogation de l'histoire, les gens se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que cet État, à quoi ça sert exactement? Eh bien, maintenant, ça devient une exigence. Est-ce que vous, les Juifs, revenus sur votre terre, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Si vous n'avez rien à nous dire, donc vous êtes des menteurs, donc vous n'avez rien à faire là-bas, rendez ça aux Palestiniens, c'est pas à vous. D'accord? C'est-à-dire que, qu'on est maintenant à un moment crucial de l'histoire où nous ne pouvons plus, en tant qu'État d'Israël, nier le rôle que nous avons à remplir par rapport à l'humanité. Nous avons un message à transmettre, et ce message se fait au niveau d'un État. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce n'est pas simplement avec un proche du Premier ministre israélien dont je me suis entretenu, c'est avec le Premier ministre lui-même qui a reconnu que le travail à faire avec les Noachides, c'est-à-dire la gentilité qui veut recevoir le message d'Israël, est extrêmement importante pour l'État d'Israël à longue échéance. Et donc, c'est la raison pour laquelle, justement, nous tentons actuellement d'introduire le Noachisme dans l'agenda, dans le programme de l'État d'Israël, dans ses grandes lignes. Il me reste encore du temps ?
Absolument. Oui.
J'ai encore du temps. C'est très bien. Donc je vais l'exploiter, mais alors là jusqu'au bout. Hein,
vous avez posé la racine principale maintenant.
Oui, d'accord. Voilà.
On veut défendre.
Oui. Bon, je pense avoir été assez clair jusqu'à présent. Là, je voudrais. Et pourquoi j'ai demandé si j'avais encore du temps, justement, c'est pour vous permettre de se remettre un peu, parce que je vais passer à une phase plus profonde de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Il y a une question qui se pose, c'est de savoir, vous allez dire c'est une question un peu bête, mais ça mérite d'être posé quand même, c'est quoi le peuple juif? C'est quoi? D'accord? Alors bon, alors on a compris, c'est pas une religion, c'est une nationalité, mais c'est pas très clair. En quoi est-ce que nous sommes une nationalité? L'idée de nation est un peu problématique, pour tout vous dire. Il y a un problème moral dans l'idée même de nation. Il y a aujourd'hui une critique du nationalisme au nom du globalisme, comme si c'était quelque chose de désuet. Et alors, ceux qui ont une sensibilité nationale sentent qu'ils sont un peu dans une lutte du champ du cygne. C'est-à-dire, par conservatisme, on va quand même dire « mais le nationalisme, c'est important ». Et cette problématique se retrouve d'ailleurs en Occident, dans beaucoup de pays. Parfois, acculé face au danger, par exemple, d'une poussée barbare, alors vous avez des gouvernements qui raidissent leur position, on peut les comprendre. Mais finalement, on se demande « mais est-ce que le nationalisme ne serait pas une forme élargie de l'égoïsme ?» Et de ce point de vue-là, si un jour le nationalisme disparaît, quel sens y aurait-il à une nation d'Israël? Est-ce que nous, pour justifier notre être, nous avons besoin que les goyim s'organisent en nation? Et de ce point de vue-là, le Rav Kook, justement, est extrêmement surprenant. Pour le Rav Kook, le nationalisme est une forme d'iniquité. C'est un élargissement de l'égoïsme. Effectivement, il y a chez les nations toujours cette problématique très grave entre ce qu'on appelle la droite et la gauche. Je vais essayer d'être caricatural, non pas parce que ce que je dis est vrai, mais parce que ça permet de comprendre. Il y a cette idée que j'ai des racines. J'aime mes racines. Un homme a besoin de racines. Et les racines, c'est ma terre, c'est mon peuple. Ce sont mes racines. Cet enracinement, d'une certaine manière, va restreindre ma vision. L'absolu de l'enracinement, c'est la haine des autres. Alors il y a une option différente qui est de dire le cosmopolitisme. Il n'y a pas de racines. Tous les hommes sont frères, nous aimons tout le monde. L'absolu de cette affirmation-là, c'est la haine de ses propres racines. Et donc, il y a ici quelque chose d'insoluble. Je ne peux pas. Maintenant, dans la réalité, pourquoi je vous dis que c'était caricatural ? Parce que dans la réalité, c'est en fait beaucoup plus nuancé. Tout homme, plus ou moins, a des racines nationales, et tout le monde, plus ou moins, a une vision universelle. Et donc, dans la réalité, c'est pas comme ça. Mais, dans l'absolu, c'est vraiment comme ça. Il y a un déchirement intérieur. Ce déchirement n'existe pas chez les enfants d'Israël, pour une raison très simple. Parce que nous sommes la seule nationalité de l'histoire qui est au service d'une mission universelle dès le départ. C'est-à-dire, chez Abraham Avinu, chez le patriarche Abraham, tu seras une nation pour devenir une bénédiction pour toutes les nations de la terre, pour toutes les familles de la terre. Et donc, pour le peuple d'Israël, le problème ne se pose pas. Mais pour les nations, ce problème se pose. Et donc, si nous avons quelque chose à transmettre aux nations, c'est leur apprendre justement comment transformer ce que la Torah appelle des goyim, c'est-à-dire des entités politiques, les transformer en mishpachot, en famille de la terre. Et c'est pour ça que nous avons besoin à nouveau de transmettre ça aux nations. Mais ça voudrait donc dire que Israël n'est pas véritablement une nation. C'est autre chose. Qu'est-ce que nous sommes ? Alors, nous sommes une sorte, si vous voulez, d'idée dans le sens platonicien du terme, une idée qui se promène sur Terre. C'est-à-dire, nous sommes en fait des extraterrestres. Oui, au niveau collectif, nous sommes une sorte d'entité collective, extraterrestre qui vient d'ailleurs, qui vient, si vous voulez, de l'infini, et qui se promène dans l'histoire sous la forme d'un peuple, comme disait le Rav Kook. Hayash memit amehalechet al haaretz betzura shel am, une vitalité céleste qui se promène sur la terre sous la forme d'un peuple. Et donc, ça veut dire, et c'est ce que disaient les prophètes, c'est que l'identité d'Israël a un sens même au-delà du monde, même lorsqu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pourtant, votre descendance et votre nom sera perpétué. Mais non, pourquoi je parle de ça alors que mon sujet c'est le double messianisme, ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David? Parce que ça se rapporte à un problème qui est une perplexité qu'avait le Rav Kook autour de la définition du peuple d'Israël et qui se retrouve après cette perplexité dans l'enseignement de Manitou. Aussi, à nouveau, c'est une analyse qu'on n'a pas toujours fait, dont je parle un peu dans l'introduction que j'ai écrite au livre de Manitou sur Mispeh de la Mashiach, ceux qui connaissent ce livre. Il y a en fait deux manières de concevoir ce qu'est le peuple juif. La première, dit le Rav Kook, dans sa jeunesse d'ailleurs, il avait déjà discuté de ça avec plusieurs maîtres, la première consiste à dire que le peuple d'Israël, c'est un peuple, comme tous les autres peuples, mais en plus de ça, il a une kippa. C'est-à-dire que, en plus de la dimension profane, qui est commune à Israël et aux nations, il y a une dimension supplémentaire qui serait la sainteté d'Israël. Et donc, de ce point de vue-là, il y a, de même que les Bulgares ont le droit à l'indépendance, eh bien les Juifs aussi ont le droit à l'indépendance. Effectivement, beaucoup de rabbins, entre autres en Lituanie, lorsque les Bulgares ont réclamé leur indépendance par rapport à l'Empire ottoman, alors ils ont publié des articles dans lesquels ils disaient « Oui, si les Bulgares ont le droit, ben nous aussi ». Et donc, mais alors, et donc, indépendamment du fait que nous sommes un peuple saint, le Rav Kook avait beaucoup réfléchi sur la question et s'était opposé à cette définition-là, sans rentrer trop dans les détails. Il disait non, non, pas du tout. Nous ne sommes pas des Bulgares. C'est-à-dire que les Bulgares, ils ont un fondement dans la nature, à leur existence. C'est-à-dire, la nation bulgare, elle existe parce qu'il y a un territoire de Bulgarie, il y a une histoire commune. Et l'histoire d'Israël, c'est pas comme ça. Ça vient d'ailleurs. Et donc, même la dimension profane d'Israël a son origine dans la sainteté. Et le Rav Kook dit qu'en fait, les deux schémas ont existé dans l'histoire. Le premier schéma était antérieur à la sortie d'Égypte, à la descente en Égypte, et le deuxième schéma est venu après la sortie d'Égypte. Lors de la descente en Égypte, le peuple d'Israël avait commencé à exister. Il avait existé depuis que Yaakov était sorti de chez Lavan, et qu'il avait commencé à fonder déjà une famille, et cette famille avait des troupeaux, et ces troupeaux occupaient un territoire, et que une partie de ses enfants avait commencé déjà à faire la guerre, et qu'il y avait des accords avec des différentes nations. C'est-à-dire que le peuple d'Israël commençait à exister avant même de recevoir la Torah, avant même l'exil d'Égypte, et il avait son existence profane comme toutes les nations. Mais il était promis également à quelque chose de spirituel, de suprême. Et puis, il y a eu l'exil d'Égypte. L'exil d'Égypte a totalement laminé la dimension naturelle du peuple d'Israël, et il a été refondé. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple d'Israël a été fondé deux fois. Une fois selon le premier schéma, qui est qu'Israël est une nation comme les autres, avec une kippa, comme j'ai dit avec beaucoup d'humour. Et la deuxième fois, lors de la sortie d'Égypte, nous avons été fondés comme une entité nationale entièrement indépendante. Or, c'est exactement ça la différence entre Yosef et Yehuda. Pour Yosef, le Midrash nous dit « Adam c'est Yosef ». Quand on dit l'homme, c'est-à-dire l'humain, c'est Yosef. Et Yosef voulait justement passer par la dimension fondamentale de l'être humain, qui est l'économie et le politique, pour fonder après la sainteté. Et ce schéma est parfois possible en Israël. Il est représenté par le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Et la deuxième dimension, c'est celle préférée par Yehuda, « Eta Yehuda l'Ekocho », Yehuda choisit la sainteté, et c'est la dimension qui s'est révélée comme étant l'essentiel dans l'histoire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le texte que commentait Manitou pour parler du messianisme, c'est un texte du Rav Kook, qui parlait justement de la dualité entre Yosef et Yehuda, ça correspondait à la première pensée du Rav Kook, celle dans laquelle il y avait une sorte de dualité entre le profane et la sainteté. Par la suite, le Rav Kook a évolué dans le sens d'une globalité de la sainteté, qu'on pourrait penser être une emprise du religieux sur le profane, mais ce n'est pas ça du tout dont le Rav Kook parle. C'est une sorte d'unité entre le profane et la sainteté. Chez Manitou aussi, il y a eu une évolution de sa propre pensée. La première école de Manitou, c'est celle du Maharal de Prague. Dans le Maharal de Prague, il y a une grande insistance sur la dualité entre le profane et la sainteté. Tandis que la deuxième école adoptée par Manitou était celle du Rav Kook, qui correspond au temps du retour en Eretz Israël, celle de la réconciliation entre la sainteté et le profane. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai quand même parlé de cet élément-là. Je pense que nous avons été assez loin, et je pense que pour l'instant ça suffira. Je voulais quand même faire une petite remarque à propos de ce que mon ami Freddy Herrera a dit tout à l'heure, à propos des sources qui sont tellement évidentes, et on se demande, mais comment se fait-il que des rabbins dont c'est le métier de connaître les sources les méconnaissent? Je me rappelle quand même un enseignement de Manitou qui disait, sur la base d'un texte de Berachot, que tout le monde a les mêmes sources, mais on les comprend différemment parce qu'on n'a pas toujours la même racine d'âme. Et c'est quand même un malheur quand on n'a pas la racine d'âme qu'il faut au moment où il le faut.
Merci beaucoup. On va prendre un petit temps pour les questions, si vous en avez. Alors, je commence comme ça, laissera le temps à chacun de se préparer pour poser sa question. Vous avez parlé de la crise du sionisme aujourd'hui. Vu de l'extérieur, peut-être c'est moins évident que cela, parce que finalement, on voit un État qui, malgré tout, a des réussites, un État qui fonctionne bien, qui a une bonne image, etc. Qu'est-ce que vous appelez crise du sionisme? Et en quoi elle constituerait cette entaille dont vous parliez, qui permettrait éventuellement de faire la greffe pour la vigne.
Bon, ce que nous appelons la crise du sionisme est un phénomène qui est en train de s'achever. C'est-à-dire, depuis les accords de Camp David, et passant surtout par les accords d'Oslo, il y a une très grande crise profonde, morale, de la société israélienne par rapport à la définition de son identité. Et il y a une remise en question de la légitimité aussi bien du sionisme que de la tradition biblique. Maintenant, ça se trouve d'ailleurs chez certains auteurs, chez certains littéraires, comme Amos Oz, comme chez Aleph Beth Yehoshua, qui sont très influents en Israël et qui retrouvent, qui ont leur fief dans, disons caricatural, dans le journal Haaretz, qui porte d'ailleurs mal son nom. Et bon, enfin, aujourd'hui, il y a, statistiquement parlant, selon les études d'analyse de la société, il y a un achèvement de cette crise. Donc, je parle peut-être un peu de manière anachronique. Et effectivement, il y a aujourd'hui une attente dans la société israélienne que ceux qui auraient quelque chose à dire le disent. Or, ils ne le font pas toujours.
Voilà, attendre la société israélienne, attendre des nations aussi, dont oui, vous nous avez parlé. Bon. Voilà, si vous avez une ou deux questions à poser à l'un ou l'autre de nos intervenants, n'hésitez pas, c'est le moment avant que nous allions retrouver la collation. Oui, je ne vous vois pas, mais vous pouvez parler. Peut-être que d'ailleurs qu'on va vous parler fort, vous vous levez, voilà. Merci. Voilà, sinon, je vous donne le micro. Alors, le keli est la base pour le spirituel, c'est-à-dire le récipient, le réceptacle matériel. Vous avez bien compris la question ? Vous pouvez la reformuler, oui. Comme ça, bon, pour tout le monde ?
Bon, je vais reformuler la question, elle est très intéressante, en fait. C'est la question du sabbatianisme. C'est-à-dire, si on donne une importance au profane, au réceptacle, alors pourquoi ne pas pousser donc le monothéisme intégral jusqu'au mal ? D'accord ? Cette question, en fait, a son origine dans le sabbatianisme, qui a affirmé que pour amener la rédemption d'Israël, il faut faire des péchés. D'accord ? Et les plus graves possibles pour que ça marche bien. D'accord ? Il y a un point très important, c'est la notion de Bediavad et l'Echatrila. C'est-à-dire, il y a ce qui se fait par les hommes, ce qui se fait par le bon Dieu. Alors, on peut dire comme ça, nous sommes sur un échiquier. Dans l'échiquier, il y a des blancs et des noirs. Nous, on est du côté, enfin, peu importe, on va pas se compliquer la vie, on est d'un côté et pas de l'autre. D'accord ? Maintenant, oui, non, bien sûr. Mais celui qui s'amuse bien à ce jeu, eh bien, c'est le Créateur. Lui, il est des deux côtés à la fois. Et donc, du point de vue du Créateur, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un sens au mal. Et pour que ça marche, du point de vue des hommes, il faut qu'on prenne parti en faveur du bien contre le mal.
Merci.
Moi, je voudrais rajouter un point. Oui, je voudrais rajouter un point qui me paraît très important. Le fait de considérer ce qui est matériel comme mal est problématique. Le côté matériel n'est pas mal, n'est pas la avéra, n'est pas la faute. D'accord ? La faute est un excès d'utilisation du matériel. Hein, Manitou aimait beaucoup rapporter la problématique de l'homme, que quand il a envie de ce qu'il a envie, alors il va vers le mal. Quand il essaie de faire la volonté du Créateur, il va vers le bien, mais ce dont il a envie, il ne l'a pas. Et il disait que ça se résout dans le mariage, où il y a un rapport avec la femme, qui est à la fois un rapport sexuel, mais aussi un rapport spirituel. On arrive à faire de sa femme sa sœur, et à ce moment-là, c'est une réussite, et c'est ce qu'on appelle la kdusha, la Kedusha, c'est quoi? C'est quand on arrive à prendre justement cette base, qui est une base matérielle, mais on ne peut pas faire autrement. On mange, on vit, on respire, et l'amener à un deuxième niveau dans lequel et le matériel et le spirituel servent. Il faut se servir de ces deux yetzarim, de ces deux tendances. Et dans cette unité, on a la réussite.
Vous ne parlez pas de la femme quand même comme de l'élément uniquement matériel. Hein, il faut que les féministes... Bien. Non, c'était... Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur... Bon, je vais me promener avec le micro, ce sera plus simple. Pardon.
Non, c'était simplement pour revenir... D'abord, c'est un bonheur de vous entendre à tous les deux. Parce que on revoit même les gestes de Manitou, on revoit la pensée. Il a pas laissé de livre, mais je sais que ses élèves, on compare ça au Maharal de Prague, qui n'avait pas écrit non plus, mais ses élèves ont poursuivi son œuvre. Et avec vous, là, sur la scène, on retrouve ce bonheur Manitou. Et je voulais vous dire aussi, justement, pour revenir à ce que vous vouliez là, la plénitude à la fois du spirituel et du matériel qui était chez Manitou indispensable. Et il le retrouvait même dans la signification de l'étoile de David, le bouclier de David, la fameuse étoile, où il y avait un triangle qui pointait vers le ciel. C'était la spiritualité qui s'enchevêtrait avec l'autre triangle qui s'enfonçait dans le sol, qui était la matérialité. Et voilà l'étoile de David.
Voilà. Merci Charlie. Donc il n'y a pas de questions, c'est un enseignement que vous nous donnez aussi au nom de Manitou. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez éclaircir, poser des questions sur le messianisme en général ou en particulier? Oui, Yves. J'arrive, attendez, parce que c'est mieux pour tout le monde quand on s'entend.
J'interviens pas sur le fond, simplement. Je relève ce qu'a dit Ephraim. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. La preuve, c'est que vous en avez fait la démonstration. Toutes les civilisations qui sont nommées, on ne sait pas ce qu'elles sont. On ne connaît pas leur philosophie, on ne connaît rien. Mais par contre, tous nos pères, Abraham, Isaac, Jacob et Moshe, etc., tous nos leaders, si on peut les appeler comme ça, on connaît leur comportement, on connaît leur spiritualité, on sait. Donc ça rejoint un petit peu le mot de Paul Valéry, terrible contre les nations du monde. Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels, et Israël, enfin l'histoire du peuple juif n'est pas du tout une civilisation, c'est une, comment dirais-je,
une éternité.
Voilà, bravo.
Et je crois que notre rôle, c'est de les réussir à les faire vivre aussi. Hein, parce qu'on doit, on a un devoir d'aimer les nations.
Oui, ben, je me joins aux autres pour vous remercier de ces deux beaux exposés. Et je voudrais soumettre à votre sagacité ce que j'ai appris de Georges Ancel, qui, justement, pour illustrer un peu la différence que tu voulais faire entre nationalisme et vocation d'Israël, il caractérise le peuple d'Israël comme un peuple qui a sa spécificité, comme tous les autres peuples, sauf que sa spécificité, c'est l'universel. Et en cela, il fait partie du concert des nations.
Je voudrais vous rappeler un mot d'Arnold Mandel à ce propos. Il disait « Les Juifs sont comme tout le monde, mais ils sont un peu plus comme tout le monde que tout le monde.
» C'est ça, exactement. Et par contre, il y a d'autres... Donc, il y a des versets où on dit qu'Israël est une nation parmi les autres nations. Et puis, il y a des versets où on dit qu'Israël est seul parmi les nations. Il ne compte pas dans les nations. Et en ce sens-là, il est unique. Donc il y a à la fois, donc si on veut, on peut rattacher Israël en tant que spécifiquement universel à Joseph et Israël en tant qu'unicité à Yehuda. Grossièrement, bien sûr. Mais je ne sais pas ce que vous
en dites. Finalement, le point est Rav Cherki a parlé de l'exemple de la vigne. On l'a explicitement dans le livre d'Ézéchiel, où on voit que l'arbre d'Éphraïm et l'arbre de Yehuda doit être un arbre. C'est-à-dire face à la situation de Joseph qui vise à faire réussir les nations chez les nations, ou de Yehuda qui dit « venez chez moi pour recevoir », on arrive à une unité qui est « on est en Israël », parce que ce n'est uniquement sur la base de notre terroir qu'on va réussir à rayonner vers le monde et essayer de faire aussi réussir les nations. Et ça, c'est une solution qui n'est ni celle de Yehuda, ni celle de Yosef. Et donc, finalement, on arrive bien à une unité complète par rapport aux autres. Et ça, ça va être ça, notre spécificité, parce qu'on n'a pas un, on ne sert pas notre intérêt propre. Israël a un devoir par rapport aux nations. On a un devoir d'aimer les nations et de les faire réussir.
Et c'est l'arbre d'Ephraïm, Merera, Yehuda, Ashkenazi.
Ouri, ouri.
Bien. Olivier, c'est bon, on va se retrouver demain. Donc n'oubliez pas, si 18h précise au centre communautaire, vous pouvez faire venir plus de monde encore, parce qu'il y a encore plus de place dans cette synagogue. Merci beaucoup à nos deux intervenants. Et une petite collation est servie, je ne sais pas, quelque part où on vous montrera. Merci encore. L'air verra.